Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
C'est l'émission d'avril, et promis, on ne parlera pas de politique.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro d'avril de Studio 404. Je suis entouré de mes quatre fidèles chroniqueurs, plus quelques surprises, quelques invités. Et nous aurons quatre sujets pour lesquels parler. J'avais déjà accueilli un de nos petits chroniqueurs. Et comme on a promis de ne pas parler de politique, je vais vous demander pour qui vous allez voter. Non, je déconne. Enfin, si vous voulez. Ouf. Vous avez une petite reco, ça va Daz?
Ça va super bien, ouais. Ouais. Une petite reco au vote ou une reco...
Je sais pas, les deux.
Alors, si j'avais une reco au vote, sachant que je déteste Naruto, déjà de base, ça va disqualifier un type. Non, bah, votez pour celui que votre cœur vous...
Ok. Il n'y croit même pas lui-même.
T'as dit de toute ta carrière de 404.
Ok.
D'accord, alors, on va dire...
C'est un shoujo manga, ton truc.
Votez, mais votez pas pour les fils de pute.
Ok.
Donc, votez pas.
Si. Attends, tout le monde n'est pas fils de pute.
Ah, là, je sens bien Poutou.
Non,
il vient, il envoie des scuds, il rentre chez lui, il a fait le boulot, il se couche, il a fait son lit, il est propre.
Non, je dis pas pour qui je vais voter, mais mon cœur est à gauche.
Ok, ton cœur est à gauche.
Voilà.
Et ton portefeuille est à droite, comme on dit souvent.
Mon portefeuille est malheureusement à gauche aussi.
Est-ce que t'as vu une autre reco à part le vote ou pas?
Ouais, alors justement, en parlant de trucs de gauche, je suis en train de binger une série qui s'appelle The Americans.
Oui.
Qui raconte en fait la vie de deux agents du KGB infiltrés aux États-Unis dans les années 80 pendant la présidence de Reagan.
D'accord.
Et c'est super bien.
Je crois que c'est sorti il y a un petit bout de temps.
Mais il y a quatre saisons en fait.
D'accord.
Et il y a la cinquième qui va arriver à la fin du mois là.
D'accord.
Donc je me suis dit que j'allais me mettre à jour et c'est vraiment une très très bonne surprise. Je pensais que ça serait un peu pourri et pour l'instant je suis à la moitié de la deuxième saison ou trois quarts de la deuxième saison et c'est très très bien.
Voilà. Comment tu fais pour avoir une famille Elite Dangerous et
Eh ben on commence déjà on arrête de jouer à Elite. De base, et puis ensuite on regarde à partir de minuit, quoi.
Très bien.
Voilà.
Mélissa.
Alors, je vais pas faire une reco-vote, mais
je vais faire
une reco, aller voter.
Ah, oh là là.
Oh, le devoir citoyen,
non,
c'est
mais alors,
beau.
Après,
non, mais attends, il y a plein de gens.
C'est aller voter, qu'est-ce que c'est
que ça? Non, mais il y a plein de gens qui veulent pas aller voter, ça me stresse vachement.
Mais ils font ce qu'ils veulent, Mélissa. Merde. Mais qui es-tu pour leur dire d'aller voter s'ils ont pas envie d'aller voter?
Une journaliste de
cette émission, moi j'en ai marre. C'est toujours pareil avec vous.
Il va y avoir genre Marine Le Pen président.
Dude, arrêtons la diphtongue, putain. Elle n'existe pas. Ok, je te l'ai déjà dit.
Bon. Dude.
Ok.
Dude.
Jude. Merde.
Bon, après avoir.
Pardon, ce cours de
langue. On peut revenir au premier dérapage. Mettons qu'on est sorti de deuxième. Donc de.
Aller voter. Reco culturel.
Ouais.
Quelle patte à l'italienne êtes-vous réellement?
T'as arrêté de troller mes reco là. T'as dit que t'étais
les
bienveillant
Disney
aujourd'hui.
Les princesses en pâte italienne.
Donc, ma reco culturelle est une très bonne série américaine, encore une fois.
The Carbonaras.
The Night Of.
Ah oui.
Très bonne série qui raconte... je vais pas spoiler rien.
Il paraît que le premier épisode est assez marquant.
Tout est assez marquant dans cette série. Ça peut sembler très lent, mais ça ne l'est absolument pas. C'est juste sur une nuit, donc. Et toutes les conséquences de cette nuit qui se déroule ensuite. Il y a un très très gros casting. Pour les amateurs de The Wire, vous allez retrouver des gens que vous aimez bien. C'est sur le système judiciaire américain et j'ai jamais rien vu d'aussi précis sur la justice américaine.
Ah oui?
Si ce n'est un documentaire d'il y a 15 ans. Donc,
même pas New York District?
Alors j'ai regardé que quelques épisodes donc je peux pas juger, mais franchement celle-ci est passionnante.
D'accord. Donc deux reco politiques cheesy et deux séries télé pour l'instant. Sylvain, est-ce que tu es sur la longueur de tes petits camarades? Ça va
je
bien?
Je confirme The Night Of, oui, ça va très bien. Je confirme The Night Of, j'ai une...
Il confirme The Night Of parce qu'il n'avait pas de reco quand il est arrivé dans l'émission.
Non mais, tout le premier épisode, moi, c'était une énorme boule au ventre en PLS dans mon lit en train de regarder, en ayant très peur, en étant très stressé, c'est hyper bien.
D'accord.
Mais par contre, je suis ravi qu'on puisse proposer des recommandations culturelles qui sont très vieilles comme vous le faites.
Ça
me met un tout petit peu moins la pression et je vous recommande un excellent bouquin qui s'appelle Les Misérables de Victor Hugo.
Voilà, tu l'as le troll.
Tu l'as binge ridé ou pas ce
ouais,
je suis sûr qu'il l'a même pas lu.
Bah, la saison 2 elle est
non,
énorme,
mais je l'avais vu
2,
passer
je
l'avais vu passer quand j'étais en première S puisqu'il était au programme de lecture du cours de français.
Mais t'as lu le spin-off The Ten Hardiers ou pas?
Parce que tu l'as fait
spin-off. Voilà, donc excellent top culturel. Moi ça m'a vraiment bouleversé. Le casting est vraiment au top et franchement il y a une profondeur scénaristique que moi j'ai rarement vue pour l'instant sur Netflix.
Quel petit tocard, il a pas bossé. Et pour qui tu votes?
Je vote à gauche, je sais pas encore pour qui.
C'est marrant parce que je suis sûr que dans l'imaginaire de notre communauté t'es un peu le macroniste, non?
Ah, mais j'espère pas.
Dans l'imaginaire réel même de notre communauté.
J'espère pas. Ah non. Non, alors si je voulais améliorer ma situation personnelle qui est celui du freelance, je voterais Macron. Mais
d'accord.
C'est pas le cas.
Très bien.
Je suis pas un perso.
C'est beau ce que tu dis. Alors Fibre, dans l'imaginaire de la communauté, tu es celui qui vote très à gauche.
Non, bah,
comment,
très
ça
à
va, comment ça va Fibre déjà?
Ça va bien, merci. Je parle juste d'un truc sur Les Misérables que je trouve très moderne. C'est que dans Les Misérables, à un moment, Cosette vend ses dents parce que elle a...
C'est très moderne ça.
Non, elle a besoin d'argent et effectivement, c'est la naissance du trafic d'organes, voilà.
Donc je crois que t'allais parler descendant de Hollande, mais en fait.
Parlons d'enjeux plus modernes.
D'accord. Hein. Et pour qui tu vas voter, Philippe?
Alors, je vais assumer.
Oui, bien sûr.
Alors, non, je vais faire une recommandation vote, mais moi, je suis de droite.
Oui.
Mais je fais une recommandation de vote qui, à mon avis, est la plus 404 possible. Je pense que, et j'ai un petit différent avec Sylvain là sur ce sujet-là, je pense que le candidat le plus 404, c'est Hamon.
Ouais.
Pour la raison suivante, c'est que pour moi, le revenu universel, il a un peu rétro-pédalé, mais j'aimais bien l'idée, je voulais m'acheter un Hummer avec, bon, moi. Et, ça c'est la blague, mais je pense que le revenu universel, c'est effectivement l'accès à tout le monde à une certaine forme d'entreprise Internet. Et c'est quelque chose d'assez moderne dans la société. Comme Internet a été une rupture dans nos façons de travailler, le revenu universel en est une autre. Et ça va venir tôt ou tard, voilà. Voilà okay. Pour ma reco-vote.
Donc tu reco un peu Hamon.
Je reco Hamon si vous êtes dans le 404 Spirit, voilà.
Très bien.
Mais toi.
Oui, toi.
Ah non,
toi.
Moi c'est autre chose. Et sinon.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme option à droite?
Je peux faire une reco culturelle. Hein.
Ouais, bien sûr.
Alors je suis très fan de Cookie Clicker. Le fameux jeu auquel vous avez tous joué, il faut cliquer sur un cookie.
Non,
pour
personne n'y a joué.
C'est le jeu auquel personne n'a joué, ouais, c'est ça.
Mais quoi? moi j'ai vu les ravages de cette drogue.
Ah non, c'est un jeu très très intéressant. La personne qui l'a créé, c'est un Français qui a un pseudo qui est Orteil. Et Orteil a sorti un nouveau jeu récemment, il y a moins d'un mois. Il est en alpha, il s'appelle Neverending Legacy. Vous pouvez y jouer en une soirée. Et c'est un jeu dans lequel on a ce qu'on appelle un needle game, donc il se joue sans vous le jeu. Vous intervenez à quelques moments. Vous avez une petite famille de 4 personnes dans la préhistoire. Et le jeu s'arrête quand c'est transformé en une grande ville de 200 000 habitants et qu'ils ont construit un mausolée pour votre descendance, tout ça. Donc c'est un mini-civilisation et il est très atmosphérique, très beau. J'aime beaucoup et si c'est la version alpha, j'attends d'avoir la version finale, ça va être super.
Très bien pour cette roco-culturelle. Bon, pour la roco-politique, on cherche un mec à droite qui aime bien Snapchat, quoi. Allez, tout de suite le premier sujet.
Oh, l'argent!
Sujet numéro 1.
Les jeux vidéo les plus artis sont-ils le meilleur moyen de découvrir le jeu vidéo?
Et c'est Mélissa qui se colle. Mélissa qui est devenue notre petit cobaye.
Attention, vous avez 4 heures. Les jeux vidéo sont-ils de l'art?
Oh,
moi j'ai eu 3 minutes. Commençons pour nous mettre bien par revenir aux fondamentaux. C'est parce que là, mes fibres ont décidé un soir qu'ils voulaient me faire passer du niveau noob au niveau 1 de la culture jeux vidéo que je me suis lancée dans cette quête philosophique. Armée seulement de ma naïveté, j'allais voir dans les jeux vidéo ce que personne d'autre n'avait vu avant moi.
En fait, on a fait une réaction vidéo avec Mélissa.
C'est ça. C'est pas filmé, malheureusement. Et même pas en 360. Bien optimistes, ils étaient là en m'envoyant la liste des 14 jeux qui sont entrés au MoMA en 2012. Oui, il y a bien Tetris, dont la musique restera dans vos têtes pendant encore bien 2 bonnes heures après cette chronique.
Oh oui.
Alors, comment tout ça a commencé? Ben, parce qu'une meuf a décidé qu'au MoMA, il y aurait des jeux vidéo. Et quel jeu vidéo? Forcément, vous allez vous dire, attendez, c'est quoi la liste? Alors, nous avons Pac-Man, Tetris, Another World, Myst, SimCity 2000, Vibribbon, The Sims, Katamari Damacy, EVE Online, Dwarf Fortress, Portal, Flow, Passage et Cannabalt. tout ça okay. au MoMA. Donc, voilà la petite sélection.
Sélectionné pour le rapport artistique.
Le design, surtout. Le design, en fait, c'est dans design. La section Applied Design Applied au MoMA. Design. Et ils ont considéré que c'était une évolution du design et que c'était, ça passait plus seulement par la photo, ou okay. les fonts, ou les typos.
Je pense que Dwarf Fortress, on pourra en reparler. Mais...
Voilà.
La sélection est pas mal.
Okay. La sélection est pas mal. Et en fait, je me suis retrouvée en fait, dans un jeu vidéo sur le jeu vidéo. Donc je suis en fait j'ai commencé par aller sur YouTube. En fait, je sais que les puristes vont crier en disant non, mais t'aurais dû vraiment y jouer et tout. Mais en fait, mon objectif n'était pas de gagner, mais de progresser dans ma curiosité du jeu vidéo, de dépasser cette angoisse face à la montagne que vous autres gamers aimez tant gravir chaque jour. Pour Daz, c'est surtout des galaxies en camion, si j'ai bien compris.
Des galaxies en camion,
c'est à peu près ça. Ouais.
Très bien résumé.
C'est à peu près ça.
Et d'appréhender, grâce à ce gameplay qui se déroulait sous mes yeux, l'esthétique, le design, tout ça allait gagner sur ma peur de l'insurmontable.
Allez, cool.
Alors, pour ma première fois de ma vie de jeu vidéo, j'ai progressé assez rapidement. Parce que les deux premiers niveaux, Tetris et Pac-Man, eh ben, je savais. Je savais éviter les fantômes avec ma grande bouche de rond jaune et mettre des briques les unes sur les autres. Parce que mon frère, en fait, avait une Game Boy. Donc, tout ça, c'était il y a 20 ans.
Un Game Boy.
Oh, les mecs.
Alors, donc, je tiens à préciser, disclaimer au milieu de cette chronique, que Daz avait précisé qu'il serait bienveillant.
Je suis bienveillant.
C'est mal barré. Ajoutons que Sylvain est aussi rentré dans la team.
Attendez, vous êtes team
un Game Boy?
Voilà, tu vois, je savais même pas.
C'est une Game Boy?
Non.
Merci.
Moi, je pense que sous-entendu, c'est une console Game Boy, mais oui, les gens mais disent voilà. un garçon.
Donc, j'ai pas encore commencé mon jeu vidéo que vous êtes okay, déjà okay, en débat. Hein. C'est super. Donc, je suis arrivée au niveau 3. Niveau 3, Another World.
Ah, bah, super.
1991. Et là, j'ai vu que la tâche, ça allait se compliquer.
La France.
C'est français, ok, je savais pas. Parce que donc, tout le deal.
Ça s'appelle
Another World. Donc, déjà,
Delphine
les mecs.
Software.
En fait, bizarrement, c'est le titre français. Le titre américain, c'est Out of This World.
D'accord, voilà. Donc Another World 1991. Alors déjà, je retiendrai cette maîtrise du pixel, des chaussures à la voiture de sport du héros, un héros qui déboule dans une sorte de bunker, tape des lignes de code sur fond vert, prend le temps de boire une canette.
Cette intro, mes amis, cette
le
intro.
Le temps que son expérimentation, je ne sais pas ce que c'est.
C'était au CERN.
Et là, pas de chance. Un gros orage et ça le balance dans un autre monde qui ressemble en fait au Grand Canyon. Okay. Avec une sorte de mammouth qui déboule et qui se fait buter par un Jedi. Et le Jedi l'emmène dans une grotte où des singes en poum-poum short creusent. Ils disent des trucs, j'ai pas compris ce que c'était. Là, il parvient à se casser d'une espèce de prison. Mais putain, c'est long, je comprends pas. À un moment, il se retrouve dans un stade avec un pistolet. Il construit des armures, enfin, il se défend des singes en poum-poum short, là. En construisant des espèces de barrières, je sais pas quoi, électromagnétiques.
Ouais.
Tout ça, spoiler, parce que bon, faut que je résume 14 jeux, donc on n'a pas le temps.
Tu vas spoiler personne, t'inquiète
pour
pas.
Pour monter sur les ailes d'une chauve-souris rouge et s'envoler. Ça, c'est la fin. Voilà. J'ai pas compris. Alors, je vois bien trouver cette technique, 91, tout ça. Il y a des mondes, ça passe sous l'eau, il y a des souterrains, il y a des trucs électromagnétiques. Bon, bref, voilà. Mais en fait, c'est juste un mec qui progresse dans des souterrains. Ok, on est en 2017, donc je comprends pas. Enfin, bref. Ça m'a juste semblé aussi long qu'un...
Oh, le dédain, le mépris.
C'est pas dédain.
Non, mais franchement,
c'est
intéressant de voir trop de pixels.
La vie, à plat.
Musique compliquée, qualité d'image pourrie. Bref, c'était un peu d'Eric, mais sans le vert sur l'image partout, tout le temps.
C'est pas du dédain, ça.
On enregistre un jour, et je sens déjà quand les gens vont écouter la chose, et que les gens vont tomber dans la rue, tu vois. Ils vont tomber dans les pommes dans la rue avec leurs écouteurs.
Attendez, les mecs, on en est qu'à la première. Ouais.
Alors, Another World, c'est fait.
Voilà, niveau 4. Donc, c'est découragé que je me dis, parce que là, j'ai donc regardé des vidéos de gameplay sur YouTube. Là, faut savoir que Another World, j'en avais pris pour 20 minutes. Hein.
Ouais.
Donc, c'est là que j'arrive dans Myst, 1993. Alors, franchement, j'étais déjà un peu blasé, pardon.
Ah bah alors là.
Et j'arrive dans un port. Je vois juste un port avec un espèce de gros mécanisme en haut de la colline là et des sapins. Alors je me vois plus, je suis plus un mec en t-shirt noir pixelisé comme dans Another World. Je visite une île sans savoir à quoi je ressemble, avec plein de sapins, et donc je dois rentrer dans une espèce de, je sais pas, encore un bunker où je vois un petit bout de papier avec un décompte derrière et qui me permet d'accéder à une espèce de chaudron. Le tout sur une musique digne de la meilleure boutique ésotérique du Havre. Franchement, c'était vraiment horrible.
Ça, c'est pas du mépris, ça.
Mais arrêtez,
c'est de la punchline de Daz.
J'essayais vraiment de comprendre, quoi. Ouais. Et donc, le truc qui a dû bluffer tout le monde, c'est que, à un moment, tu ouvres un livre et il y a un écran avec un mec qui parle. Je pense que c'est ça le vrai truc qui a dû se passer, où les gens étaient vraiment Mais moi, je me, dans la vidéo que j'ai regardée, j'ai juste vu un mec qui tournait en rond et qui rentrait et qui allait au chaudron pour faire apparaître un espèce de plomb. J'ai vraiment pas compris à quoi ça servait.
C'était l'auteur du livre, non? Normalement, dans Myst. Je crois.
Ouais, oui, c'est sûrement ça. Mais j'ai pas compris ce qu'il disait parce qu'en plus c'était pas traduit. Donc voilà. Tout ça, enfin, pour vous dire que j'avais pas fini le jeu. Enfin, j'ai pas réussi à finir parce que je me suis dit non, c'est trop long et je suis même pas morte. Enfin, bref, il m'est rien arrivé. Je sais que j'aurais dû creuser plus, mais franchement, le décor me, enfin, je trouvais ça chiant, quoi. Je sais que vous êtes tous choqués autour de ça.
Ah non, mais moi, j'aime pas du tout Myst, alors. Pas tout.
Surtout qu'après, là, j'ai fait un truc qu'aucun joueur ne ferait. Mais étais-je déjà une joueuse? Non. J'ai sauté les niveaux. Donc j'avais besoin de nouveautés, j'ai fait un bond en 2004 parce que pourquoi pas. J'avais envie d'aller voir les Sims, mais en fait j'avais déjà vu quand j'avais 15 ans. J'avais fait des trucs comme tout le monde, j'avais construit une maison, une famille, et à la fin tout le monde était mort, on s'entretuait.
Ben voilà, t'as joué correctement à un jeu vidéo. Comme
voilà,
quoi, ça
mais c'était il y a 15 ans, donc j'ai pas vraiment des super bons souvenirs. J'en garde en fait un peu le même souvenir que Second Life, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à construire des trucs, mais on n'y est jamais retourné.
Exactement.
T'as joué à Second Life, Mélissa ?
Ouais, c'était vraiment long.
Ah.
Cela dit, j'aimais plus SimCity, SimCity 2000, parce que je pouvais construire des mondes et ça j'aimais mieux quand j'étais petite sur le PC de l'école. C'était vraiment cool.
Enfin des mondes.
Enfin tu vois des espèces
de villes quoi.
Des villes, tu pouvais choisir où tu mettais ta ville et tout. Mais bon, j'ai jamais poussé l'expérience jusqu'à demander à mes parents d'acheter un PC pour pouvoir jouer à SimCity, donc j'ai jamais continué SimCity. Attention, là on arrive au meilleur moment.
Ah parce que
parce qu'en fait
pas encore arrivé au meilleur
moment. En fait mon truc pour juger. J'ai surtout commencé par la musique, parce que c'est le premier truc qui vous choque. Et en fait, là, je suis arrivée dans Katamari Damacy.
Oh.
Et là, la musique... Alors, ça commence mal, parce qu'au début, il y a une espèce de mauvais son de DJ qui fait genre... Enfin, je peux pas vous l'imiter, Daz saurait faire ça mieux que moi. Qui croit qu'il sait mixer. Puis après, là, j'ai eu l'impression d'être aux Bahamas et de me défouler dans une espèce de lancée capitaliste en ramassant tout ce qui se mettait sur mon passage en étant cette grosse boule. J'étais dans cette petite ambiance Bahamas, c'était super
bien.
Cool.
Bahamas capitaliste,
c'est
on était
ça.
Bien.
Ouais. Je parcourais le monde et me défoulais en voyant que je pouvais conquérir tous les objets sur mon passage,
c'était
les bateaux.
Moi, je l'appelais Katari Damacy. Hein. T'incarnes une Katari qui ramasse tout ce qu'elle peut.
Katari.
Oh, c'est pas mal.
Bah, c'est
pas
exactement le même principe qu'une Katari sur les champs.
Putain.
Bah, c'est vrai.
Et donc, sur YouTube, j'ai quand même fait 2 millions de kilomètres, enfin selon le titre de la vidéo, comme ça en 8 minutes. Après, c'est comme ça que je suis... Enfin, quand je suis sortie de ces 8 minutes de vidéo, j'avais un peu l'impression d'être à Tokyo et de sortir d'une salle d'arcade parce que, en fait, j'avais ni d'yeux ni d'oreilles, mais l'impression d'avoir parcouru le jeu le plus zinzin de l'histoire du jeu vidéo. Et vraiment, je sentais que dans Katamari Damacy, il y avait un truc. Une espèce de folie que je voyais pas dans Myst et dans Another World où ça semblait bien plus classique. Je me suis dit, genre, il y a un truc. Donc, relancer, rebooster, me voilà arrivé devant Dwarf Fortress. Là j'étais blasée à nouveau.
Ben moi aussi je suis un peu blasée.
J'ai vu des plans plats, donc avec des pixels.
Principe
ça,
d'un plan, ouais.
Ça ressemblait à Game of Thrones, mais sans l'argent de HBO. Il n'y avait pas la 3D quoi dans le générique.
Ah d'accord.
Et en fait les petits trucs là, j'ai compris qu'il fallait se sortir de quelque chose, mais j'arrivais pas à en sortir, donc je suis devenue très vite claustro. Donc j'ai vraiment eu envie de fuir de ce jeu. Vraiment, je crois que c'est l'un de ceux où je me suis dit non, mais je peux pas. Heureusement, j'allais pouvoir enfin me lancer dans la phase arty de ce jeu vidéo, enfin de ma quête dans la curiosité du jeu vidéo, quand je suis tombée sur Flow.
Ouais.
Jeu de 2007, où là j'ai vu des dragons de toutes les couleurs qui se bouffent les uns les autres. Mais c'était beau, ça flottait en transparence. Franchement, je suis restée bien 3 minutes à regarder.
C'était sorti
les trucs.
Sur quelle plateforme ça ?
PlayStation, Flo.
C'était magnifique. Je pense que être sous drogue et jouer à un jeu vidéo, ça doit être vraiment bien. je pense que je pourrais y retourner à la fin d'une soirée un peu arrosée. Mais on arrive au cœur de tout, à Portal.
Ah,
2007.
Portal.
Même année. Là, mon esprit a frétillé à nouveau. C'est-à-dire que les dragons m'avaient un peu préparé. Mais là, j'ai entendu cette voix. Et en fait, dans la vidéo que j'ai regardée, je sais pas s'il faut faire comme ça à chaque fois, mais ça commence hyper bien parce que donc il y a cette voix qui pourrait être une voix d'une chanson de techno allemande parce qu'elle est tellement distordue que c'est fou. Sauf qu'elle parle anglais, pas allemand. Ok, j'ai compris. Mais en fait, ça commence hyper bien parce que le mec commence à balancer une tasse dans les chiottes. Et après, enfin, il doit sortir de son
le héros est une femme, hein, excuse-moi que je
préfère. Ah ouais. Et donc, non mais en fait,
mais tu sais pas, tu te vois pas.
Non mais tu vois un espèce de reflet d'un truc qui saute, mais tu sais pas ce que t'es. Enfin, j'ai pas vu les cheveux et tout. Enfin,
d'accord.
Et donc, t'es dans un bloc en verre et tu balances ta tasse. Enfin, t'essaies de tout casser en fait. Et c'est hyper bien parce que tu te défoules. Et j'ai l'impression, donc j'ai compris qu'il fallait monter les niveaux au fur et à mesure et essayer de se sortir de ce truc en creusant des trous, enfin en brûlant des trous dans les portes.
En brûlant des trous dans les portes. C'est la meilleure description de Portal ever. C'est génial de dire qu'il faut brûler des trous dans les portes.
Mais je comprenais vraiment pas trop comment je faisais. Mais ça arrivait, enfin ça arrivait parce que le mec qui jouait dans la vidéo jouait hyper bien apparemment parce que la meuf en plus commentait son jeu. Et elle lui faisait trop de commentaires, elle lui posait des questions philosophiques sur à quoi bon survivre. Je trouvais ça hyper bien. C'est enfin un jeu où je me dis, ah, il y a un peu de second degré, on s'amuse et tout, il y a des trucs philosophiques. Donc j'ai continué à tout détruire sur mon passage, bon défoulage. Et je me suis dit, ah, ça y est, je continue à vivre. J'étais pas frustrée, quoi, je mourrais pas. C'est pas comme dans Another World où je pense que le mec est mort 12 fois. Et à un moment, je détruis l'espèce de grosse pince avec un champ magnétique qui est au dernier niveau là. Et je sors et là j'entends les oiseaux. Magnifique.
Ah.
J'ai eu un petit moment, j'entends les oiseaux.
C'est la fin de Portal.
Donc là, t'as spoilé Portal en fait.
Ouais, ça va,
fallait,
ouais.
C'est 2007. Ah, ça
y a
fait
des,
10 ans.
Il y a des prescriptions maintenant.
Bah, ça fait 10 ans.
Ok.
Alors excusez-moi, c'est la fin de Portal, mais avant Portal 2. Parce que quand tu fais Portal 2, ils ont updaté la fin. Mais bon, détail.
Voilà, enfin c'était magnifique. Et là, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai.
Mais ce qui est génial, c'est que t'as vu la fin de Portal sans rien comprendre de Portal. Mais c'est
ça.
Ouais. J'ai brûlé des trous avec des cigarettes géantes.
Et je balançais des espèces de cubes. Qui servait, je sais pas voilà, à quoi faire. Okay. Mais je balance des
Mais alors,
des
The Cake is a Lie, tu le vois partout et tu te dis, ça te dit rien, en fait.
C'est le fameux.
Non, mais
gâteau.
J'ai vu le cake à la fin, avec la bougie. Ah. Super fin de Portal. Donc, on arrive à la fin. Et donc là, tu te retrouves dehors. Bizarrement, je faisais un bruit de robot. Alors qu'au début, je croyais que j'étais un humain. Donc, j'ai pas bien compris ça. Puis, fond noir. Et là, il y a une voix qui arrive. Enfin, non. Il y a une pince qui arrive, qui souffle une petite bougie, enfin qui éteint une bougie sur un cake, un gâteau d'anniversaire, et là qui commence à chanter une petite chanson. J'avais envie de pleurer devant tout
superbe
ce,
chanson.
Tout
This is the triumph.
This was a triumph. I'm making a note.
C'est trop magnifique.
Huge success. It's hard to
run. Vous devriez tous chanter, sauf ceux qui n'ont pas fini le jeu, c'est-à-dire tous.
GLaDOS.
C'était magnifique. Franchement, j'ai écouté toute la chanson. En plus, il y a les paroles, donc c'était facile de comprendre. Ensuite, je suis passée à un autre jeu qui m'a aussi mis du baume au cœur. Passage, sorti en 2008. Point cute de toute cette expérience. Mmh. En fait, c'est un jeu, je ne sais pas si vous avez tous joué, qui se joue dans une mini-fenêtre de 100 par 116 pixels, donc plus horizontale que verticale. Et on voit deux personnages amoureux méga-pixelisés progresser à travers des obstacles de droite à gauche de la fenêtre, donc qui fait 100 pixels par 116. Ouais. Et en fait, donc ils doivent avancer. Et en fait, on les voit vieillir au fur et à mesure qu'ils avancent dans les mondes. Donc on voit leurs petits pixels blonds qui deviennent gris. Et en fait, à un moment, bah, la femme, elle meurt. Mais en fait, lui, il continue. Mais en fait, il continue, mais c'est plus facile puisqu'ils sont plus deux à devoir passer les obstacles.
C'est une belle morale de vie, je trouve.
Et genre, non, mais ça te fait la progression
morte,
de la vie.
La vie plus simple.
Et après, lui, il meurt aussi. Et en fait, personne n'a gagné. C'est juste, ça dure 5 minutes, ce jeu, en tout et pour tout. Et t'as juste vu deux personnages progresser. Et donc là, je me suis dit, oh ouais, c'est mignon. Mais juste, il y avait pas ce truc de faut gagner à tout prix.
Ouais.
Tu regardais juste un truc passer. Et ça, c'était franchement, ça m'a reposé parce que ma grande angoisse, vous l'avez compris, c'est que j'ai toujours peur de perdre dans les jeux vidéo. Ouais. Et puis il a fallu reprendre ses esprits, messieurs, et un shoot d'adrénaline avec Cannabalt, cette expérience. Musique techno à fond. Je me sentais comme James Bond à sauter d'immeuble en immeuble sans me blesser jamais par les vitres brisées ou les obstacles ou le vide. Parce que la vidéo que j'ai regardée, forcément, le mec allait super loin. Combien de mètres j'allais pouvoir enfin parcourir en combien de temps? Combien de ma bite allait... Pardon. Parce que franchement, c'est vraiment ça. Le mec avance de plus en plus vite. Je me suis dit, non, mais vraiment, le seul point, c'est juste d'avancer le plus vite possible. Donc, c'est vraiment James Bond, sauf qu'il s'arrête jamais, quoi. Vite joué, vite compris. Franchement, bon jeu pour se défouler. Je me suis rendu compte que j'y avais déjà joué, en fait, au bout de 5 minutes. C'était presque trop simple, mais c'était trop bien. Donc j'ai bien aimé, mais en fait je suis restée un peu sur ma faim avec Cannabalt. Je me suis dit, ah, ça peut pas être le dernier bon jeu, quoi. C'est le plus récent, il est sorti en 2009.
Ouais.
Et donc en fait je suis retournée dans l'espace-temps où j'avais sauté les Sims et tout ça, en me disant, c'est quoi ce truc qui s'appelle Vib Ribbon là au milieu? Qu'est-ce que c'est que ce truc de 1999? Et là je suis allée sur YouTube, j'ai cliqué Vib Ribbon, pouf pouf pouf, et là je tombe sur un lapin dessiné en une ligne qui doit passer des obstacles, le tout en disant des trucs en japonais sur un fond de musique de taré. Franchement, j'étais trop contente. Alors, par exemple, quand tu passes une porte, ça fait un gros son de batterie hyper lourd. Quand tu pars dans les aigus, ça fait un... Enfin, quand tu fais un loop, tu pars dans les aigus. C'est dingue, c'est en noir et blanc, c'est très simple et pourtant, c'est hyper réjouissant. Pour vous mettre dans l'ambiance de Vibribone, si vous n'y avez jamais joué.
J'ai jamais joué à ce truc.
Incroyable ce jeu.
C'est vraiment cool, hein. Franchement.
Et si je me rappelle bien, tu pouvais mettre n'importe quel CD audio dans Vibribone et générer les obstacles.
C'est bien le truc.
C'était incroyable.
Ça a l'air assez génial, franchement. J'ai été soufflé alors que c'était juste une ligne noire et blanc avec un lapin. Donc il en faut peu parfois. Voilà, nous sommes arrivés au bout des 14 niveaux, même si j'en ai sauté 3. Okay. À la fin de cette expérience de binge gaming, j'ai eu envie de vomir. J'en veux encore. Je suis perdue. Je vais rêver de dragons et d'immeubles qui s'effacent sous mes pieds. J'ai l'impression d'avoir visité 15 mondes différents, d'avoir repoussé les limites de mon imagination, de ne plus être dans le même espace-temps. Ce que je viens de faire là, sûrement similaire en fait à l'expo qui est au MoMA, ou à mon avis, j'en suis sûre, on peut pas jouer aux jeux vidéo à part certains, mais vraiment de manière très très limitée. Donc à part Tetris, Pac-Man, les Sims et Cannabal, je n'avais joué à aucun de ces jeux et j'ai de fait pas joué à ces jeux. J'ai regardé des joueurs m'emmener. J'avais pas la frustration du game over, le truc qui me fait si peur. Je me suis juste baladée dans YouTube, comme dans les allées que j'aurais pu faire dans un musée. Et à la fin, est-ce que j'ai eu envie de jouer aux jeux vidéo? Parce que c'était ça le
question.
Truc.
Oh là là, c'est une question avec un suspense insoutenable.
T'avais dit bienveillant.
Je suis bienveillant, j'insultais personne.
Il me reste 1% de batterie, laissez-moi finir ma chronique. Donc non, je n'ai pas eu envie de jouer.
Quoi
ça alors?
Et je me dis que si j'avais été dans un musée, j'aurais peut-être eu encore moins envie de m'immerger, parce que là en fait dans YouTube, j'ai réussi à être dedans avec mon casque et tout, vraiment, et j'ai vu des bons joueurs jouer, donc c'était vraiment hyper efficace. Mais en fait, ce que j'ai fait là, ça m'a permis de dépasser la raison pour laquelle je joue pas aux jeux vidéo, au contraire. En regardant des joueurs aller au bout, je me suis dit que j'aurais jamais fait aussi bien.
Ouais.
Ou en tout cas en mettant beaucoup plus longtemps, alors que je trouve déjà que j'ai mis très très longtemps à faire les choses. En fait, je déteste mourir ou perdre ou rater. Et en fait, le dernier jeu auquel j'ai joué récemment, c'est Limbo, qui est un jeu magnifique dans une forêt mystérieuse tout en noir et blanc avec des magnifiques dessins, mais où tu meurs à chaque coup de piège à chien, là, avec le bruit qui te bouffe et le sang qui coule.
Piège à chien.
Et en fait, pendant ces heures sur YouTube, je me suis amusée, j'étais bien, quoi. J'étais posée, je passais de passage à Cannabalt et je pouvais être en empathie, je pouvais pleurer, je pouvais faire son truc. J'étais un peu comme face à un tableau de Dali. J'avais pas de guide, mais je voyais la beauté, mais je pouvais en apprécier certains contours, mais pas tous. En fait, c'est sûrement ça l'art, ou en tout cas l'art qu'on met dans les musées. C'est celui où on est un peu spectateur. C'est comme si on était en fait face à un bouquin du Moyen-Âge. On l'a pas lu, on n'est pas lecteur, mais on peut en apprécier, à mon avis, sa beauté. Il y a un mec qui a publié une critique de cette expo, en fait, en disant que c'était pas de l'art parce que, en fait, le fait de jouer ne crée pas des œuvres.
Ouais.
Bah, en fait, quand t'es face à un tableau, t'as pas besoin de peindre pour que, tu vois, pour comprendre le tableau ou en tout cas être ému par ça. Alors après, si un jour le MoMA me réussit à me faire avoir envie de jouer, là, ils ont peut-être accompli quelque chose. Pour l'instant, ils ont juste fait leur boulot de musée. Pas plus.
Très bien. Donc, fin de la visite pour Mélissa.
Ouais, c'était.
Donc, intéressant. Ça veut dire que tu as, d'une certaine manière, c'est une victoire, c'est que tu as reconnu l'apport du design et de l'art dans le jeu vidéo, mais la défaite, c'est que tu n'as pas envie de jouer aux jeux vidéo.
Non, parce qu'en fait, j'ai toujours ma même angoisse de pas réussir, quoi. C'est toujours ce truc-là. Je vois en fait, c'est vraiment bien parce que ça a quand même poussé mon imagination et je me suis dit, genre, tu manques quelque chose.
Ouais.
Tu manques des mondes, tu manques beaucoup. Mais le truc qui est de devoir aller dans un truc et passer des heures et des heures pour avoir souvent l'objectif de gagner, mais pas tout le temps. Ce qui est bien, c'est que ça m'a quand même appris qu'il y a plein de jeux où t'as pas besoin de gagner ou de franchir des niveaux.
Et
de plus en plus
d'ailleurs, qui s'affranchissent.
Et ça, c'est rassurant.
Très bien.
J'ai vraiment l'impression d'être une noob en disant ça. Mais voilà, c'était une quête.
Il y a un mec à côté de toi qui a les joues gonflées parce qu'il y a plein d'air
qui
dans
a
sa
dit
bouche. Et
team bienveillance, rappelons-le.
Alors Daz bienveillance.
Eh bien,
hashtag bienveillance,
alors,
hashtag carbonara.
C'est un message pour les gens qui nous soutiennent sur Patreon. Alors je suis désolé. on a eu un concentré de tout le dédain que j'aurais pu donner depuis le début de 404 en une
mais
seule
non.
chronique. Et ça, c'est quand même un exercice.
Mais tu sais que l'exercice, c'était que l'âme avait dit tu ne regardes rien à propos de ces jeux.
Oui.
Tu fais ce que tu peux.
Avec Fibre, on voulait qu'elle ait une sorte de tunnel
de vision.
Oui, mais
il y avait un léger biais.
Mais comme tu l'aurais fait, Daz.
C'est quoi? C'est que Mélissa n'aime pas le jeu vidéo.
Oh, c'est comme elle si a jamais
moi,
dit ça, Mélissa.
Voir
c'est
un
faux,
film
c'est
de
faux,
Franck
c'est
Dubosc,
faux. Elle a jamais dit ça, Mélissa.
J'ai pas dit que c'était moche.
Ah bah si, tu l'as dit déjà.
Non.
Elle a dit qu'il y a des jeux qui étaient très beaux et d'autres qui étaient moches.
Attendez.
Non mais attends, il y a des jeux qui trouvent moches aussi.
Une merveille de rotoscoping, il est incroyable ce jeu.
J'étais sûr que Daz, il était pas là pour débattre, il était là pour faire son expérience.
Non. Tout ça pour dire que...
L'intérêt, c'est comment pour quelqu'un qui découvre le jeu vidéo, est-ce que c'est une bonne entrée?
Alors moi, je pense que déjà c'est pas la liste que pour quelqu'un qui découvre, c'est pas la liste que
après,
j'aurais.
Après,
il y a pas Daytona USA, il y a pas Elite,
il y a pas Mario, juste il y a pas Mario, tu vois.
Non, mais Another World, par exemple, ce qui est intéressant, c'est comme l'a dit Mélissa, c'est des jolis pixels. Pour reprendre son discours, MDR, où est le respect, hein.
Bienveillant.
C'est des jolis pixels, mais, à jouer, c'est injouable. Ouais. Vous mettez un joueur de 2017 devant Another World, il pète les plombs.
Non, mais c'est un jeu Amiga, donc de toute façon, c'est injouable.
Non,
mais c'est
non, un, non, mais c'est un jeu qui est
effectivement,
qui est
Mario,
chaud,
c'est un jeu, tu mets quelqu'un devant un Super Mario World qui a 20 ans, bah, ça coule crème, quoi.
Non, mais c'est vrai que Another World, c'était pour la partie graphique que le jeu a été,
cinématographique, c'était fou.
On est d'accord qu'il n'y a aucun de vous trois qui n'est rentré dans le jeu vidéo par cette liste, quoi.
Non.
On est rentré sur du Mario, bah, on est rentré
si, Pac-Man,
sur du Sonic,
peut-être,
on est
si,
rentré
quand même,
sur
quand même, Pac-Man.
Tetris, Pac-Man.
Mais Tetris, c'était déjà bien longtemps
mais
après
la
Mario.
La PlayStation s'est vendue par ses graphismes et son design avant de se vendre par ses jeux. Je vous rappelle.
Ouais, mais là, il y a aucun jeu PlayStation.
C'est Toshinden et Ridge Racer, quoi. C'est des trucs.
Ouais, c'est vrai.
Vides, mais très beaux. Mais alors, du coup.
Alors, comment ne pas t'insulter? C'est ça la question. Comment?
Non, mais Daz.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a consommé le jeu vidéo. Comme beaucoup de gens le consomment aujourd'hui, c'est-à-dire via Twitch, elle c'était par YouTube.
Ouais, en
et,
passif, comme,
et voilà,
expo, comme
et
elle a dit.
Effectivement, le jeu vidéo, ça reste quelque chose, bizarrement, auquel on joue de moins en moins.
Oui,
ça, mais qu'on
vrai.
Consomme quand même.
Ouais, on regarde de plus en plus le jeu vidéo.
Mais du coup, je me suis quand même dit, je vais continuer à regarder.
Ah, donc ça, c'est
c'est-à-dire
cool.
Que je vais pas m'arrêter là, je vais pas. Là, j'ai bingé, donc c'était un peu dur à la fin.
Ouais,
et
parce
je me
que
suis vraiment dit.
C'est tapé 14 jeux vidéo à la suite, très différents les uns des autres,
c'était
et
dur.
En plus avec une grosse patte. C'est ouais. Quand même.
Enfin, Cannabalt, tu vois, typiquement, c'est un runner.
Mais il est hypnotique, ce runner. Je trouve hypnotique.
Ouais, mais je veux dire, t'envoies 10 secondes, t'envoies une heure, c'est pareil. Tu vois, il y a pas de, tu progresses pas, il y a pas de, il y a pas d'évolution.
Tu joues 10 secondes à Cannabalt, tu joues une heure, c'est pareil, mais sauf que tu joues une heure.
Ouais, enfin bon. Je veux dire, la partie de découverte, c'est pas comme un Katamari d'Amessi ou.
Mais il y avait aussi des remarques très intéressantes, Mélissa. Quand tu parlais de Myst, c'est marrant parce qu'elle parlait du body awareness sans parler du body awareness en disant c'est marrant, je ne sais plus rien.
Je n'ai pas
de corps, je n'ai pas de visage, je ne sais pas qui je suis. C'était assez intéressant.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Myst, c'est un monument. Et pourtant, elle est, avec ses yeux de 2017, qui n'a jamais joué, elle dit c'est moche. Et effectivement, c'est quand même assez moche.
Non, mais même à l'époque,
à l'époque
de Myst, il y a des gens qui détestaient Myst.
À l'époque, c'était joli.
Non, mais t'as le bruit du port, t'as la mer et tout.
C'était un simulateur de carte postale. C'était ça le genre dans Joystick quand il avait testé, ça dit simulateur de carte postale.
T'as des petites cabanes et tout.
Par contre, ce qui est intéressant, l'analyse que j'ai jamais eue de toute ma vie, et on va dire la chronique, mérite d'exister grâce à ça, c'est le fait de dire que Katamari Damacy, c'est une parabole sur le capitalisme. Je trouve ça génial.
Sur l'accumulation des biens.
Parce que c'est absolument pas ça, en fait.
C'est marrant de le voir. C'est très marrant de le voir, justement.
Voilà, c'est ça.
Et c'est quoi, alors, du coup, si c'est pas ça?
Ben, en fait, il faut.
C'est une parabole sur une boule qui roule et qui colle des trucs.
Derrière, il n'y a pas d'idéologie, il y a que dalle.
Non, en fait, c'est le roi de l'univers qui a perdu tous ses objets et il faut les ramasser en les collant, tu vois. Et la vidéo que tu as vue en particulier, ce qui est hyper bizarre et étrange et beau, c'est que tu commences avec une petite boule de genre 30 mm de haut, tu roules des mini trucs et après elle grossit, donc tu roules des gros trucs et à la fin tu roules des planètes, tu vois.
Tu ne peux coller que des choses qui se font la taille ou moins que la circonférence de ta boule.
Voilà.
Donc voilà.
J'avais pas compris ça.
Donc au début, si tu croises un immeuble, tu peux pas, mais à la fin, tu peux.
Voilà. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est un peu une de même que Mario, il courait après des pièces.
Ouais.
Là, on accumule des choses et c'est assez intéressant.
Et c'était marrant aussi sur ton retour sur Portal. Au-delà du gag on ouvre des portes oranges, on fait des trous avec des portes oranges.
Non, mais attends, on brûle les trous.
On brûle les murs.
Vous le décrivez comment, du coup, si c'est pas ça?
Ce qui est très marrant, c'est que...
On ouvre des portails.
Interdimensionnels.
C'est que tout...
Ok, vous avez un
portail et tout scénario de portail, du coup, tu l'as pas vu? Et qui
Le jeu s'appelle Portal, il s'appelle pas Burning Hole in the Wall, tu vois.
C'est juste un joli nom pour les trous, quoi.
Les trous. C'est vrai que le jeu s'appelle Trou. Trou et la suite Trou 2. Ah, c'est marrant. Non, c'est très marrant parce que Portal, par exemple, c'est un jeu dont le design est subtil, puisque en fait toute l'histoire se passe, le scénario se passe en filigrane, donc il ne t'est pas donné de manière brute, et tu le découvres par toi-même, par des bouts de choses. Et donc c'est marrant de voir que, par exemple, si tu n'y joues pas et que tu regardes juste comme ça, en fait, ça te...
Tu comprends rien, en fait.
Tu passes à côté de beaucoup de choses.
Moi, j'avais juste l'impression de remonter un bâtiment.
Voilà. Ouais,
je... ouais. Non, mais okay. Si, avant, tu vois les numéros des étages.
C'est quoi, un simulateur d'ascenseur, en fait.
Pas, c'était pas numéro, des numéros
c'est
d'étages.
C'est des épreuves.
C'était des expériences sur des humains. Et tu passais à chaque fois des nouvelles expériences sur des humains.
Il y a une relation mère-fille très complexe, en plus, dans le jeu. C'est, enfin, c'est, il est profond. Mais effectivement, quand le jeu est sorti, Gamecult lui a mis 5 sur 10.
Ça restera l'erreur magistrale de Gamecult.
Bah, pourquoi pas?
La tâche de leur carrière.
Pourquoi pas? Mais effectivement, peut-être que la personne qui était derrière
c'était
Portal.
Mélissa,
c'était moi, déjà.
Non, voilà, c'était quelqu'un qui, comme Mélissa, a dit, bon, t'enlèves l'histoire, y a pas grand chose.
Du coup, pour finir ce débat, est-ce que vous pensez que montrer le jeu vidéo juste avec des vidéos et par l'apport en termes de design, donc quelque chose de très art appliqué, c'est une bonne manière de promouvoir le jeu vidéo ou pas?
Non.
Ou est-ce qu'il faut le faire lancer, il faut dire bah, il faut que tu joues à ce jeu, il faut que tu joues ensuite à ce jeu. Faut que
c'est une façon de faire rentrer le jeu vidéo dans certains cercles qui ne s'y intéresseraient pas, parce que c'est pas tout le monde qui va au MoMA, c'est une certaine catégorie de la population.
Ouais.
Donc je dirais que ça reste dans ce cercle-là. Tu vois, les mecs, ils essaient pas de créer quelque chose ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est juste. Pour moi, c'est de l'entre-soi à 2000%, quoi.
D'accord. Non, mais après, des expos jeux vidéo, il y en a eu plein. Il y en a eu une au Petit Palais, je crois, ou au Grand Palais.
Des expos sur le jeu vidéo, il y en a eu plein. Il y en a une en ce moment.
Non, mais celle-ci,
là, précisément, tu vois.
Celle-ci, précisément, c'est voilà, de dire qu'on a fait une sélection que sur le rapport en termes d'art appliqué. Sylvain, comment tu ferais découvrir le jeu vidéo autrement, alors, en tout cas, que jouer à tel jeu et tel jeu, tel jeu?
Si tu m'avais dit il y a 5 ans que on pouvait considérer le jeu comme un art sans y jouer, j'aurais rigolé, je t'aurais dit non, il faut jouer à un jeu pour comprendre son essence et toute sa profondeur. Et c'était avant Twitch et tous ces trucs-là où effectivement maintenant on passe beaucoup de temps à regarder et c'est cool, ça marche. Après, je pense que d'avoir foutu des jeux au MoMA, c'est aussi un côté. Pour moi, c'est moins pour faire découvrir que de dire ça y est, on considère le jeu vidéo comme un art et on peut le mettre dans un musée.
Caution.
Et c'est plus patrimoine de l'UNESCO, quoi. On lui met un petit label, on lui dit tac, il y a des jeux au MoMA maintenant. Voilà.
Ouais. D'accord.
C'est plus ça, moi, je pense.
Toi, tu ferais pas découvrir le jeu vidéo comme ça, en tout cas.
Non.
D'accord.
Il y a une certaine universalité. Il y a un jeu russe, il y a un jeu français, il y a un jeu américain, et voilà. Donc c'est pas simplement l'Amérique qui monte ses jeux vidéo, quoi.
Ouais. Et toi, Fibre, comment tu ferais découvrir le jeu vidéo?
Alors,
autrement qu'en disant joue à tel jeu.
Je leur donnerai Out There
dans le muséum of, c'est un musée d'art moderne, le MoMA, et l'art moderne, quand on voit carré blanc sur fond blanc, on comprend rien, hein, c'est juste un voilà.
C'est marrant parce que vous êtes là, oh, le dédain de Mélissa pour le jeu vidéo. Puis bon, alors l'art moderne, c'est un carré blanc sur un fond blanc,
effectivement.
Voilà, c'est Rothko, c'est Mischfoot de ta gueule,
non Malevitch. Mais pour comprendre justement l'art moderne, il faut avoir aussi à côté le cartel, donc qui t'explique, bon, voilà, c'est un carré blanc sur fond blanc, il est pas à l'envers, vous inquiétez pas, et il t'explique un petit peu le truc. Et je pense que le fait de voir, mais il faut aussi une explication. Par exemple, effectivement, Dwarf Fortress, c'est super aride, et quand tu le regardes, tu dis, pourquoi ce jeu qui est sorti après les autres, mais qui a l'air beaucoup plus ancien que les premiers, il est sélectionné, pourquoi?
Ouais, c'est vrai,
et
c'est
en fait,
intéressant.
Si quelqu'un qui t'explique pourquoi c'est un jeu fondamental, qui en plus n'est qu'à 20% de son développement, et ben dans ce cas-là, Tu le trouves très intéressant. Je dis, mais il est là et en plus, il est vraiment bien. Et même sans y jouer, moi, parfois, je pense à Dwarf Fortress et je m'éclate à y penser parce que c'est un jeu qui est top, quoi.
dans la tête de Fibre Tigre.
Non, mais
c'est un
écoute
suffisant, en fait.
Non, mais excusez-moi, il y a beaucoup de jeux. On y joue dans le lit, tu vois, sans avoir la console allumée. Elite, vous arrêtez pas toute la journée. Il y a un groupe Elite de 404 sur Twitter.
Toute la journée, Fibre.
Toutes les minutes, il y a un mot. Et le mec, il parle toute la journée de Elite. Donc, c'est un jeu qui vit sans le jeu. Donc
c'est
là,
vrai,
c'est ça. Voilà.
Très bien. Et donc, Mélissa, dernière question. Est-ce que, comme dit Fibre, tu avais découvert cette sélection, mais dans le cadre vraiment d'un musée avec des plaques explicatives, t'aurais aimé, ou est-ce que tu as préféré ce côté brut de décoffrage et de pas forcément tout comprendre, mais du coup d'avoir des ressentis très bruts sur les médias auxquels
j'ai clairement préféré ce que j'ai fait. Parce D'accord. que si j'avais été dans un musée, je vois très bien la scénographie du MoMA.
Ouais.
Et ça aurait été blanc et d'une pièce à une autre. Enfin, j'aurais vraiment navigué comme avec des tableaux et c'était pas du tout la meilleure façon.
Là
aller sur YouTube
et
choisir ce que je voulais et vraiment rester 20 minutes sur un truc, c'était génial.
Très bien.
Ah donc, tu préfères l'expérience via YouTube que la vraie exposition
De fait, je l'ai pas vu, j'ai demandé à des gens qui étaient allés au MoMA
à
quoi ça ressemblait, mais ils m'ont dit une exposition classique où certes tu peux jouer à certains mais pas à d'autres.
Ouais,
et je me suis dit je suis vraiment mieux à m'immerger 20 minutes dans un jeu sur YouTube.
Et le bilan carbone est meilleur quand même.
Ouais. C'est une nouvelle obsession
serveurs,
de Fibre.
Est-ce qu'on demandera aux auditeurs, aux auditrices de 404 de nous fournir leur petite sélection, une sélection de 10.
Une petite playlist.
Alors s'il vous plaît, sans mépris, sans dédain.
Mais j'ai aucun mépris, il devrait faire la même
la sélection de qualité.
La sélection de qualité.
14 jeux de qualité.
Très bien. Eh ben, on attend très vite vos sélections et on attaque tout de suite la première FAQ qui s'est déroulée au Piaule.
FAQ.
C'était lors de notre dernière soirée au Piaule où vous êtes venus nombreux. Nous vous avons posé des questions après que vous ayez bien bu. Et voici la première, donc cette FAQ, qui était accepteriez-vous qu'une application coach votre vie sexuelle, comme aujourd'hui des applications coach votre vie sportive ?
Ça pourrait être cool, par exemple, pour Fibrotique, puisqu'il compte ses orgasmes et tout, les notes de 1 à 6. Apparemment, si c'est un truc de ouf. D'ailleurs, ça devrait être lui qui devrait faire l'application, en fait.
Non, parce que je suis assez performant et je veux pas qu'on sache que je suis nul si je suis nul.
Ma vie sexuelle. Alors d'accord, faut que j'en ai déjà une. Et après, je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui seulement si on peut avoir des notes. Je mettrais 5 étoiles à la limite pour moi.
Franchement, au point où j'en suis là. Je veux bien qu'on y aille.
Ouais, ça serait cool. Ça. J'aurais bien voulu avoir ça la première fois. Ça aurait été vachement pratique. J'aurais fait moins de conneries. Quoi.
J'en ai pas besoin.
Oh, dans la mesure où ça peut permettre d'améliorer tes performances, pourquoi pas ?
Oui, mais il y a déjà Clou. Oh, mais non, Clou, moi je mets déjà quand est-ce que j'ai des rapports. Et en fait, c'est un peu comme un coach.
Genre, aussi.
Oui, vous êtes enceinte, bravo. Enfin, tu vois, je sais pas.
Oui, j'ai Clou.
Non,
moi.
Non, je pense que sur le sexe, je crois que tout se passe dans la tête, quoi.
Ok, mais uniquement s'il y a des achievements et que je peux me la péter après avec des stickers comme soir ou un truc du genre.
Ah, si ça reste dans l'intimité, ouais. Ouais, complètement, ouais. Avoir ses performances et tout. Le fameux 6 sur 6 de Fibre Tigre. Je suis chaud. Faut pas que ce soit partagé sur Facebook, c'est tout, quoi.
Ou partagé sur un podcast.
Alors, Runtastic, c'est vachement bien, mais pour courir après, Sextastic, je suis pas sûr.
Fucktastic ?
Fucktastic, ouais, non.
Non, je dissocie totalement la technologie et ma vie sexuelle. Moi, je suis très moyen âge. Bah après,
chambre de torture
sage, tu vois de mais non t'imagines ça fait trop chier, enfin, en vrai c'est un cliché très masculin mais après avoir fait l'amour moi j'adore m'endormir comme une merde, tu vois, ça me fait trop chier de, ah vas-y je vais aller regarder des chiffres ou je vais écouter une appli qui m'a dit que j'ai bien ou mal fait, quoi.
Ouais, grave, genre l'appli elle me dit et c'est maintenant 1 2 3 4.
1, 2, 3, 4
5, 6 sur 6, Fibre.
Quelle formidable communauté.
J'ai remarqué
bien alcoolisé.
Ouais.
Parfois,
ça devait être la dernière question de la soirée.
Non.
Il y en a plein qui tirent pas beaucoup leur coup, quoi. Mélangez-vous un peu là.
Ils écoutent des podcasts. Ils peuvent pas tout faire, genre.
Faut qu'on fasse vraiment des plus de speed dating dans nos soirées.
Non, mais moi j'étais plutôt étonné. Je me suis dit, il y a quand même pas mal de monde qui a dit, bah écoutez, ouais. Pourquoi pas dans l'intimité, ça peut me coacher, c'est pas plus mal. Comme quoi, hein. Bah Fibre, tu sais ce que tu dois faire ? The beautiful quoi ?
The beautiful fuck.
C'est pas mal quand même, fuckful.
Bah écoutez, à vous de faire, moi je suis bien occupé déjà.
Est-ce que tu peux calculer la distance que tu parcours ?
Oh.
Mais ça, Daz,
on a parlé dans une chronique déjà super longtemps.
C'est vrai.
En vrai, j'ai une
650 km.
En vrai, j'ai une montre là au poignet qui compte mes kilomètres. Et
non, on veut pas savoir.
Ça marche pas pour autre chose que marcher, voilà.
Ah, ok. Et si tu la mets sur
Non.
Il y a des anneaux maintenant.
Oui, c'est vrai. Il y a des choses qui existent.
Il y a des gens qui ont volé mon concept. Hein.
Ah là, c'est très très beau.
Bon. Le quantified sex.
Je viens d'avoir la vision de la montre, la smartwatch de Fibre autour de son chibre. Ça. On va laver ça tout de suite avec le deuxième sujet.
À grande zone.
C'est Fibre qui se lance.
Sujet numéro 2.
J'ai testé de tout consommer en accéléré.
Et laissez-moi vous dire que c'est bien plus intéressant qu'il n'y paraît, bien que pour les podcasts anglais français, je préfère
tout ralentir à 25% pour le LOL.
OMG,
magnifique.
Meilleur titre.
On la remercie facile, mais n'oubliez pas notre voix. C'est Angélique Robert. À KNG. Ça va, Fibre ?
Oui, ça va. Alors, dans un autre podcast qui n'est pas chez Qualité, mais j'en écoute quand même parfois à la concurrence. Donc
oh, donnez le nom.
Le After 8 de décembre, donc un podcast pop culture de Camus et Quicks qu'on salue, il parlait d'un film dont le nom est Gods of Egypt. Et il parlait d'une façon qui donnait envie de le voir, mais pas de l'acheter. Et donc un matin, ce film s'est retrouvé sur mon PC et je l'ai regardé.
Tu l'as trouvé par terre.
Et alors, à mon insu, il y a eu un petit bug quand j'ai lancé le visionnage du film. C'est que le film s'est lancé à vitesse 1,25. Et j'ai pas compris, j'ai pas remarqué le truc au début. Et du coup, je me suis fait de réflexion, j'ai dit waouh, déjà ça va vite hein. Voilà. Cette intro, parce que déjà le film ça commence par une longue intro et là c'est super condensé, et après je me suis dit ils ont un accent bizarre, c'est une version québécoise, parce qu'on sait jamais hein, sur les quand on télécharge des trucs. Et
en fait, téléchargé, donc t'as avoué.
Vite, t'as trop vu le matin, ça il faut le dire vite. Mais alors, un film à vitesse 1.25, c'est regardable. Parce que déjà, j'ai mis 10 minutes à m'apercevoir que c'était vraiment à vitesse 1.25 et c'était pas un bug, tu vois. Donc, c'était pas un blockbuster sous acide. Et je me suis... J'ai appris après, fortuitement, qu'il y a des gens qui consomment les podcasts, les films, les séries en vitesse accélérée. C'est de ça, j'ai mené ma petite enquête, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, je salue un chroniqueur du podcast Trajectoire qui s'appelle Arthur, qui écoute tout en vitesse x2.
Oh là là.
Et qui nous écoute en ce moment en vitesse x2.
Ah, venez, on parle hyper vite, comme ça il va
pas justement, ça tombe bien, parce que pour vous donner une petite idée, Ghislain nous a fait un petit montage. Alors, c'est pas tout à fait ce que ça donne au final quand on écoute ça en vitesse avec des logiciels, mais ouais, ça vous donnera un petit peu de l'idée de ce qu'on a. Donc déjà, on va écouter en vitesse normale. Vas-y Quentin.
Et Adgroup, vous êtes sur Slack qu'on parle de la prochaine émission?
Ouais.
Où sont les autres?
Mélissa est en date, Sylvain est en voyage, Daz rentre du boulot dans sa voiture, entre parenthèses, stalk.
Ok, tu peux le ramener s'il te plaît?
Voilà, donc ça c'était l'intro de notre fameuse émission sur la communication en vitesse normale. Maintenant, écoutons-la en vitesse 1,5 fois.
Et Adgroup, vous êtes sur Slack qu'on parle de la prochaine émission?
Ouais.
Où sont les autres?
Mélissa est en date, Sylvain est en voyage, Daz rentre du boulot dans sa voiture, entre parenthèses, stalk.
Ok, tu peux le ramener s'il te plaît?
Donc déjà c'est un peu plus rapide.
Oh mais ça va. Comment tu fais pour ne pas rigoler? Moi tous les trucs de ballon d'hélium, moi je rigole comme un
balade. Il y a des applis qui te dépitchent.
Voilà, c'est ça. Normalement on dépitch, mais bon c'était un petit peu. Mais passons à la vitesse vraiment x2, c'est-à-dire celle des pros. Alors allons-y.
Et Adgroup, vous êtes sur ça qu'on parle de la prochaine émission?
Non mais. Et là, on sait pas, mais il y a Arthur, il saigne des oreilles.
J'ai chopé ça incompréhensible.
Alors, c'est incompréhensible en x2. C'est incompréhensible en x2. Oui. Mais il faut que ce soit, normalement, c'est dépitché, mais là, c'est pas, bon, c'était un peu pour le lol, on l'a laissé comme
et
ça.
Mais donc, dépitché, ça donne quoi? C'est tic et tac qui discutent, en fait.
Non,
t'as plus les
gus. C'est plus voix.
T'as autant de normal, mais qui avance quand même deux fois
plus vite. Oui, qui parle très vite.
Même vitesse, mais moins de.
Alors, avant de hurler que c'est n'importe quoi, mais Daz m'a précédé ma phrase, et d'aborder ces individus qui consomment bizarrement, sachez que l'accélération du contenu, c'est quelque chose qui est naturellement présent aujourd'hui dans nos vies par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma petite enquête auprès de Ghislain et il m'a dit qu'à la radio, par exemple, en post-production, on enlève les blancs, on enlève les silences. C'est-à-dire que vous avez une émission normale qui est enregistrée et après, ils enlèvent tous les silences, ce qui fait que c'est compressé et finalement, on écoute quelque chose qui est en accéléré par rapport à ce qui est normalement. De la même façon, souvenez-vous de Friends. Friends, il y a une vanne. Le mec fait une vanne et il se pose comme ça sur son canapé parce qu'il y a les rires enregistrés. Puis après, il y a une deuxième vanne et il se repose. Mais quand on enlève les rires enregistrés dans Friends, bah, l'épisode, il dure la moitié moins. Et aujourd'hui, finalement, quand vous avez Arrested Development, qui est une série où il n'y a pas de rires enregistrés, mais qui est dense, et bah, vous avez en fait le Friends moderne sans les rires enregistrés. Et vous regardez en fait des choses denses, compressées.
D'accord.
Et qui, par rapport à une époque plus ancienne où les gens écoutaient des choses moins denses. Et imaginez que ces gens-là, ils regardent Arrested Development en x1,5 ou en x2. Donc c'est ils sont en totale compression quoi.
Grave.
Alors les gens qui vous invitent à écouter du contenu fois en accéléré, donc il y a un excellent article de Slate que je vous conseille de voir, qui m'a été conseillé par Mélissa. On mettra les liens sur le forum.
Cuire des carbonara en 5 minutes ou le 10 en fois 2.
Non. Alors ils conseillent de commencer par 1,3. Après d'aller à 1,5. Après d'aller à 1,6 et d'y rester quelques mois quand même. Et puis après, vous pouvez passer à 1,2 et vous êtes vraiment là, vous pouvez voir 2. Mais effectivement, x2 cash, c'est trop violent.
C'est trop dur.
Si on dirait des mecs qui te conseillent la muscu, genre si tu commences par 20 kilos direct, tu vas te blesser quoi. Tu vas te déchirer.
Tu vas blesser tes oreilles. Hein.
Mais alors, pourquoi ces gens font ça? Alors, évidemment, trop de choses à voir, trop de contenu, je veux tout voir, j'ai pas assez de temps. Et ensuite, quand on leur dit non mais attendez, vous profitez pas, ils répondent. La justification qu'on voit partout, c'est mais ça vous arrive jamais de feuilleter un livre? Donc, en gros, eux, pour eux, ils feuillettent des séries comme on feuillette des livres. Et on retrouve derrière ça un peu notre angoisse de pas être à la page du newsfeed de Twitter. C'est-à-dire que on charge, je sais que ça c'est quelque chose qui t'est cher, l'âme.
Ouais.
Tu charges Instagram et t'as envie de voir, de rattraper tout ce que t'as pas vu depuis la dernière fois où t'as chargé Instagram.
Ouais.
Il y a des gens qui font ça sur Twitter et en fait ça s'est déporté et Netflix aujourd'hui c'est un peu un Twitter comme un autre. Oh, j'ai pas vu toutes les séries, je dois être un complétionniste comme on appelle dans les jeux vidéo, donc quelqu'un qui regarde tout, qui voit tout, mais j'ai pas le temps, je veux avoir une vie à côté, donc je regarde fois deux.
Le mec qui veut platinumer Netflix, bonne chance.
Surtout avec toute la merde qu'il y a sur Netflix, ça fait un peu chier.
Je veux pas dire, mais
il y a la lecture fois deux sur Netflix.
Non.
Il doit y avoir des petits plugins Chrome. Ouais.
C'est possible parce que YouTube.
Ah, vous regardez Netflix. Ah, pardon, vous avez pas de télé connectée.
Non, mais sachez par exemple.
Juge pas,
sachez par exemple que dans les lecteurs vidéo de Xbox, il y a des achievements. Donc, le complétionnisme achievement, ça peut exister, comme je pense. C'est, on y arrive en tout cas. Ces gens-là, ils veulent avoir du temps pour faire autre chose. Quoi? Alors,
plus de podcasts.
Le Petit Prince aurait dit peut-être avoir le temps de regarder enfin une série lentement, tu vois. mais il y a quelque chose qui me fascine un peu, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs de séries ou de podcasts qui finalement réduisent la série et le podcast à la somme des informations qui sont dedans. C'est-à-dire que en fait, ils veulent voir les événements de la série, les twists, parce qu'ils n'ont droit qu'à ça. Ils ne peuvent pas voir les plans qui sont beaux. Ils peuvent pas avoir finalement un rythme original qui n'est plus là. Et je me suis dit peut-être que comme ces gens ils consommaient du Arrested Development de façon dense et c'était un petit peu leur shot de culture, peut-être le fait de regarder deux fois plus vite c'est un super shot de drogue culturelle pour eux, tu vois. Pourquoi pas. Et moi je me dis pourquoi ces gens-là ils vont pas directement sur Wikipédia américain pour lire le résumé, parce que Wikipédia français, il n'y a jamais la fin, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une grande question. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse beaucoup.
Si, ça arrive maintenant.
Je crois que c'est parce que les Américains différencient plot et synopsis.
Oui, mais en tout cas.
Il y en a un qui spoil super pas l'autre.
Ouais, d'accord, mais en tout cas, il y a sur le français, ils ne spoilent jamais.
Si, ça, c'est en train d'arriver, ça.
Bon, en tout cas, c'est pas génial. Pourquoi, moi, personnellement, je me spoil. Hein. Et pourquoi, pourquoi ne consomment-ils pas les séries télé comme on consomme un peu les pornos, c'est-à-dire que souvent les pornos, on regarde un peu le début, on picore un petit peu au milieu,
c'est ta version,
et on regarde la fin. Non mais c'est vrai,
on fait passer le curseur le long de la ligne comme ça
pour
les miniatures.
Hop, c'est la fin de la pipe.
Non mais pourquoi pas, pourquoi.
C'est une sorte d'accélérer, Fibre a raison.
Mais c'est ça, pourquoi les gens ne consomment pas les séries comme ça finalement, après tout. Mais face à ces questions-là, je suppose qui alimenteront le débat et que je vous poserai sur les forums et vous pourrez y répondre, je voudrais proposer deux chemins, deux sentiers de réflexion.
Tout d'abord, il est en train de refaire trajectoire. Je vais proposer deux sentiers de réflexion de plus en plus durs.
Tout d'abord, est-ce que cette consommation accélérée, ce n'est pas juste un premier pas, un aspect vers une consommation du futur qui serait une consommation hyper customisée? C'est-à-dire que déjà, vous voyez, cette consommation très rapide, ça existe déjà dans un médium qui s'appelle les jeux vidéo.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a le speedrun.
Ouais.
Le speedrun, c'est vous regardez, vous consommez passivement comme Mélissa ou vous jouez de façon très rapide à un jeu vidéo pour en arriver à la fin. Pourquoi il n'y aurait pas ça dans un film? Pourquoi pas regarder la trilogie Star Wars de la façon la plus optimisée possible? Est-ce que au lieu de regarder Star Wars, on enlève les temps morts, on fait un condensé, on fait les 6 ou les 8 films en un seul film de 3 heures? Voilà, pourquoi pas. Je vous rappelle que Soderbergh, il avait posté un moment Indiana Jones et les aventures de l'Arche perdue en noir et blanc.
Ouais.
C'est une façon de customiser un film. Pourquoi ne pas regarder un film en noir et blanc? Il y a eu Mad Max récemment, ils appellent ça noir et chrome.
Ouais.
Donc une nouvelle version du film. Pourquoi regarder les Goonies, film des années 80, en 4K de ouf avec un son home cinéma, tout ça, alors qu'on pourrait le regarder avec un vieux filtre VHS, un format 4 tiers, un petit logo la 5, une publicité entre-temps sur les Raiders, par exemple. Vous regardez ça un dimanche après-midi avec vos potes, avec des pépitos. Vous êtes dans une ambiance folle.
J'aime les dimanches chez Fibre.
Ce qui existe sur certains jeux, dont le Wonder Boy qui sort actuellement, où tu peux switcher à l'envie.
Tout à fait. Dans Monkey Island aussi, on pouvait la nouvelle version remasterisée ou l'ancienne version. Donc, est-ce qu'on ne va pas vers une gamification du mode de consommation des produits culturels? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde pas dans une salle de cinéma, on regarde pas le film dans sa pureté telle que l'a voulu le directeur Scott ou je sais pas quoi. Non, vous dites, moi je vais regarder ce film comme ça, comme ça, comme ça, et notamment à l'accéléré. Donc ça, c'était ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion, c'est je vous propose, Bon, en tout cas, c'est ma pratique à moi. Non pas de regarder les choses plus vite, mais au contraire, plus lentement. Il y a 1000 livres qui sortent par jour. Il y a 1000 jeux qui sortent par jour, 1000 jeux vidéo. C'est fini, vous ne pouvez pas les consommer. C'est depuis les années 1800, on ne peut plus consommer tout ce qui sort. On ne peut plus être à la page. Donc, l'angoisse du newsfeed culturel, c'est une impasse. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, en vitesse x2, vous arrivez à avoir toutes les séries Netflix, dans 5 ans, c'est terminé. Il y en aura trop. Ouais. Vous ne pourrez pas les voir, c'est terminé. Vous avez perdu la partie. Donc moi, depuis 4 ans, je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais angoissé comme vous. Et je consomme très peu en lutte, on va dire, en quelque chose. Donc moi, j'ai environ un livre, une série télé, une BD par an, je vais pas dire un jeu vidéo parce que je consomme quand même beaucoup de jeux vidéo pour des raisons professionnelles. Donc du coup, je vois une série TV par an, voilà. Et
je comprends.
En plus, moi, quand je lis un manga, je lis très lentement, c'est-à-dire que je peux passer 10 minutes par page et je peux faire une page par jour. Donc c'est je regarde bien tout. Alors effectivement, il y a des mangas qui sont moins denses que d'autres, mais ouais, je regarde tout, je m'en imprègne et je le vis à fond.
D'accord.
Et c'est un peu du slow reading, je sais pas si ça existe, mais en tout cas moi je kiffe quoi.
Et donc ça peut être très intense.
Ouais, c'est hyper intense, tu regardes tous les détails, en fait tu dis je suis en train de regarder des détails que peut-être l'auteur a fait que personne d'autre ne voit, tu vois. Et ça c'est assez fou. Mais il y a une autre façon d'appréhender la lecture ou la consommation très lente, c'est que aujourd'hui, une série ne se résume pas à la série télé. C'est-à-dire, on vous la présente pas juste bout de décoffrage ou juste un film comme ça. On crée des univers autour pour des raisons notamment de merchandising. C'est-à-dire que, par exemple, Harry Potter, c'est plus un univers qu'une série de films. C'est-à-dire que les gens connaissent des tas d'endroits qui sont évoqués une demi-seconde. De livres ou de films. En tout cas, c'est quelque chose de très vaste. Et moi, parfois, je consomme quelque chose, notamment Harry Potter, que je connais pas trop. Je fais stop dans le film. Et je vais sur Wikipédia et je regarde qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, j'ai une consommation parfois hyper étale de l'univers et je le consomme lentement. Voilà.
D'accord.
Et il y a cette dimension-là. Il y a une autre dimension que je dirais une dimension sociale. C'est que aujourd'hui, parfois, qu'il y a des séries qui passent pour la première fois sur Netflix, mais aussi sur France 2. Il y a des productions en ce moment qui, il y a un petit renouveau de la série. Et les gens partagent sur Twitter en même temps. Et effectivement, c'est une consommation sociale qu'on a tous ensemble et on peut pas regarder deux fois plus vite. On regarde finalement d'une façon un peu plus lente.
Linéaire, normal.
Voilà, normal, on va dire. Normal, mais parfois même un peu plus lent parce qu'il y a des morceaux que tu es obligé de t'arrêter parce que tu partages sur Twitter des choses. Donc, tout ça pour vous dire que...
Fibre, prends ça.
Voilà, c'est ça. Voilà,
et après, il dit qu'on fait des chroniques.
Moi,
accélère ta chronique.
Pour résumer la grande idée, c'est que s'il y a des personnes qui consomment en accéléré pour des raisons personnelles, je pense qu'on assiste au premier moment d'une consommation custom qui va peut-être devenir, devenir quelque chose de. Voilà, on pourra consommer les séries comme on veut, à la vitesse qu'on veut. Et dans les années 70, il y avait ce concept qui s'appelait le Future Shock, qui est évoqué dans Judge Dredd ou Johnny Mnemonic, mais après ça c'est Sylvain Palaisé dans le concept d'infobésité, je sais pas si vous vous souvenez. Donc l'infobésité c'est le fait d'avoir
toujours sur moi que ça tombe les noms de merde. Hein.
Non mais c'est
toi qui as voulu être le concepteur de cette
émission. Le mec qui nous a préparé trois termes.
Ouais.
Non mais le fait c'est le fait de consommer trop d'informations, on a trop d'informations, ça nous rend fou. Et là moi je me dis on est peut-être en train de vivre quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire on consomme trop de produits culturels. Voilà, on est dans l'obésité du produit culturel, la culture-obésité. Voilà. En tout cas, je laisse ça à votre sagacité et je vous laisse voir si vous préférez en accélérer ou au ralenti.
Ah, merci Fibre pour cette chronique. Alors déjà, question évidente, cher chroniqueur, est-ce que vous consommez des choses en accéléré ?
Jamais.
Ou en cut, comme le porno, par exemple. Mais d'une certaine manière, vous accélérez...
Qui ne consomme pas le porno en cut, qui se manifeste hein.
Ouais, j'avoue. Et un mec fait, moi je regarde un porno par an, en entier.
Hyper lent.
Des fois je vois un truc, je m'arrête, je me dis tiens, je vais aller sur Wikipédia.
Qui est cet acteur ?
Réparateur de câbles, je sais pas ce que c'est que cette société du câble.
En fait, je pense que. Donc je suis complètement d'accord avec la vision du truc, c'est-à-dire qu'effectivement le porno tu le regardes pas en. Mais je pense que le porno il est tourné justement précisément pour être consommé de cette manière-là.
Je sais pas.
Alors
pas
que sûr, hein. Typiquement, ce qu'on a vu par exemple avec des séries comme 24, donc 24, 24 heures chrono, c'est que quand tu la regardais, c'est une série qui avait été écrite pour être diffusée hebdomadairement.
Ouais.
Et du coup, quand tu la regardais,
quand
tu la binge-watchais, c'était insupportable. Ouais. À un moment donné, tu faisais stop et t'allais respirer parce qu'en fait, il se passait trop de trucs trop vite.
Tout comme Lost, il y avait beaucoup trop de.
Voilà, ça va trop vite en fait quand tu le regardes. Pas de la manière dont ça a été prévu lors de l'écriture. Et du coup, t'as des séries qui prennent leur temps maintenant parce que Netflix propose les saisons spécialement pour pouvoir binger toute la saison en une fois. Et du coup, l'écriture, ça se ressent aussi. C'est-à-dire qu'à mon avis, si tu regardes un House of Cards vraiment de manière hebdomadaire,
il y a des vrais passages très longs, parce que c'est ce que je fais moi.
Tu vois, t'as presque
envie d'abandonner la série à un moment en disant. Ouais.
C'est ça, mais alors que, enfin, moi, je me suis remis dans House of Cards justement, et je l'ai bingé justement pour ça, parce que je savais très bien que si jamais j'essayais de maîtriser la consommation, j'allais forcément m'emmerder. Du coup, quand tu parles des gens qui veulent avoir, par exemple, dans un film, que les moments clés, ou dans une série, que les moments clés, les twists, les cliffhangers et ce genre de trucs, je me dis qu'ils passent quand même à côté de l'essence du truc, quoi, tu vois.
Oui, mais
je peux comprendre pour le porno, je peux comprendre pour le talk, ok, donc le podcast, tout le contenu audio, mais je veux dire, le contenu vidéo,
pourquoi pour un contenu audio, ce serait acceptable et pas pour un contenu
Parce que là, par exemple, on fait une émission de talk, tu vois, et on essaie pas de poser une atmosphère, il n'y a pas une ambiance musicale,
etc. Tu veux qu'on pose une atmosphère,
là on pourrait très bien, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, Twin Peaks, en accéléré, tu passes juste à côté de la série, en fait.
Oui.
Parce que le but, c'est justement d'être contemplatif et de prendre son temps, tu vois.
D'accord. Alors, je fais le tour des chroniqueurs, après on revient dessus. Mais est-ce que tu consommes des choses en accéléré ou tu condenses ou tu prends des raccourcis?
Jamais. Sauf dans mon expérience sur YouTube.
Les jeux vidéo.
Non, mais sauf sur YouTube ou alors des sections de bout télé où je veux juste voir la petite phrase de je sais pas qui.
De Philippe Poutou, par exemple.
Non, je sais pas quelle émission. Non, j'ai regardé les débats en entier. Croyez-moi, j'aurais voulu les voir en accéléré. Je pense que j'aurais bien supporté un x6.
Si t'étais bon.
1,6. Mais pour le reste, je le fais pas du tout et surtout, j'apprécie vraiment les séries qui prennent vraiment leur temps. Je vous conseille The Night Of, c'est vraiment très long.
D'accord.
Et vous voudriez pas la regarder en accéléré.
Sylvain Palais, est-ce que tu consommes des choses en accéléré ou pas?
Alors, petit message pour Arthur. Comment tu trouves ma voix maintenant, bâtard? Je rigole. Non, moi je suis un petit peu comme Nas, c'est-à-dire que je fais confiance dans les mecs qui ont produit, qui ont créé, qui ont scénarisé, qui ont écrit le contenu. Et je considère que pour avoir l'expérience totale et parfaite de ce type de contenu, il faut le mater dans les conditions où ça a
été fait. Mais ça veut dire que vous voulez une expérience complète et totale.
Alors, un petit bémol cependant, je peux comprendre par exemple, parce que, enfin, depuis quelques années, depuis peut-être 4 ou 5 ans, voire un peu plus, on a cette manie du « il faut absolument que mon film fasse 2h20 ». Même quand le contenu ne justifie pas qu'il fasse 2h20.
Heureusement qu'il y a Lucie de Luc Besson qui dure que 1h30. Et très bon film.
C'est long pour 1h30. Là, du coup, t'as l'impression qu'ils ont rallongé le truc. Quoi.
C'est cette caractéristique qui, dans les yeux de Fibre, rend le film, justement, complètement sauvable. Mais c'est vrai qu'il y a des films qui sont insupportables de longueur et tout le monde prend son temps. Et là, ceux-là, je comprendrais qu'on les accélère.
Alors, et donc, pour rebondir dessus, et pour rebondir sur un des arguments de Fibre, vous savez qu'il y a ce qu'ils appellent des recuts maintenant, donc des fans qui recoupent des films. Et qui s'amuse parfois donc à couper genre tout Breaking Bad en un film de 2h20 ou toute la première trilogie de Star Wars en un seul film de 2h40. Et par exemple, alors imaginons que vous dites « Ah, Breaking Bad, je peux pas, c'est une œuvre que j'adore, je veux voir tous les épisodes, chaque scène de Bryan Cranston que je loupe, ça m'énerve. » Mais si à l'inverse, vous dites effectivement « J'ai détesté la première, donc la deuxième trilogie Star Wars, donc celle de avec Missa. » et qu'on vous dit, en fait, j'étais tout cuté, donc j'ai viré 80% du premier épisode et les gambadages dans le lac de Côme entre Anakin Skywalker et Prince Padmé. Donc en fait, j'ai fait un film ultra punchy. Et en fait, cette mode est née parce qu'un monteur professionnel d'Hollywood faisait tourner cette copie du remontage de la trilogie qui faisait tourner chez les copains. Et tout le monde a crié au génie en disant, super, en fait, tu viens de sauver un contenu qui était mauvais. Tu l'as condensé, tu l'as accéléré, tu l'as cut, charcuté et t'en as fait un bon truc.
Eh ben moi je suis d'accord avec
pourtant,
cette vision-là.
Oui, mais encore, vous parlez du respect monteur, quoi. De l'auteur qui a montré.
Oui, mais en fait le monteur là, il a fait un vrai travail de montage. Bien il n'a pas juste cuté à l'arrache comme toi ou moi accélérant.
Imagine que quelqu'un cut de manière talentueuse un 404 pour le faire tenir en 25 minutes.
Moi je suis d'accord.
Mais tu peux aussi cuter de manière à allonger de manière très intéressante. Autre série que je regarde, que j'ai regardée, j'ai fini, Big Little Lies, que je vous conseille à tous.
Il paraît que c'est génial.
Ouais. Du coup, j'ai plus envie de dire ce que je vais dire parce que vous voulez regarder, mais...
Non, il paraît que c'est beef-bof un peu.
Le pitch de départ est hyper simple. Enfin, c'est des mères de famille avec une vie dans une banlieue riche de Californie. Et elles ont... Enfin, la série, le pitch est vraiment hyper ordinaire.
Est-ce qu'elle serait pas un peu désespérée et à la maison, ces femmes?
Et à la maison.
Et là, vous vous dites, c'est chiant, je vais pas regarder. En fait... Faut regarder cette série rien que pour le montage. Parce qu'en fait, le pitch a l'air simple.
Ouais.
Il est simple, finalement. Mais c'est ouf.
C'est une brioche avec
du chocolat. En termes de montage, c'est... Bah, de toute façon, le réalisateur, c'est un mec qui a fait des films. Et donc, ça se sent. Et il fait 8 épisodes et c'est pas pour rien, quoi.
Ok, d'accord. Fibre.
À titre personnel, juste pour... je l'ai pas dit dans la chronique, mais je regarde systématiquement le résumé du film ou du livre avant de le lire, avant de le consommer. Donc je connais la fin. Un peu comme quand vous regardez Titanic, finalement, vous savez comment ça se termine.
Non. Et Titanic,
pas Titanic, ok.
Ça se trouve, il va pas mourir.
D'accord. Mais,
non, mais Titanic, tu sais pas que la vieille, elle a le truc depuis le départ et qu'elle
moi, si vous voulez, je sais exactement ce qui va se passer, je sais exactement comment ça se termine. Je m'installe et je regarde le film et je regarde tout. Et je me mets plein les yeux du truc et je me dis, je sais où ça va et je m'intéresse pas du tout aux informations, je regarde tout le reste et c'est super beau, super intéressant et je redécouvre des choses.
C'est une preuve d'angoisse assez forte.
Ouais. Non, et
c'est-à-dire que tu ne tolères pas la surprise.
Non, au contraire, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sacralisent les spoilers et j'en ai déjà parlé de toute façon.
Oui, on en a déjà parlé, ouais.
Et les œuvres ne se résument qu'aux informations qu'elles contiennent, aux informations dramatiques. Et or, justement, oui, c'est ça qui est intéressant.
Oui, mais alors là, c'est le contraire, ce que tu... Oui.
Parce que du coup, en accéléré, tu retires... si tu consommes de l'accéléré, tu retires ce temps que tu as pour apprécier les informations.
Ah, mais moi, je ne consomme pas en accéléré.
Pas en accéléré, ouais, en fait.
Que tu voilà. Slow.
Mais justement...
Mais lui, ce spoil, ça serait une autre chronique.
Non, mais je veux dire, même, par exemple, si vous spoilez Sixième Sens, par exemple... C'est très intéressant de regarder Sixième Sens quand vous êtes spoilé.
Non, parce que c'est le intéressant de regarder Sixième Sens une fois, puis de regarder
Sixième Sens. Je vais vous dire, vous en avez pas un peu ras-le-bol des twists de fin, des trucs comme ça à la con.
Oui.
Franchement, vous voulez pas regarder une simple histoire.
Là, on est sur un autre débat, Fibre.
C'est un autre débat, mais je suis assez d'accord.
Ouais, c'est ça.
Bon, top. Alors, Fibre, encore une fois.
Le mec pirate sa chronique.
Non, mais je pense qu'aussi, ce truc est vraiment un truc de quand tu parlais de pression sociale. C'est-à-dire que. En fait, on arrive vraiment au moment où personne ne peut plus tout voir, tout lire, tout. Enfin, ça faisait déjà 50 ans pour la lecture, mais pour les séries, on s'est dit, ouais, je peux tout regarder toutes les saisons, j'ai trop envie, c'est addictif. Mais en fait, il y a une pression sociale de comment t'as pas regardé ce truc-là? Et en fait, il y a vraiment des gens qui cèdent à cette pression en écoutant tout en accéléré.
Ouais, Stranger Things, vous m'avez bien cassé les couilles, je l'ai pas vu. Et finalement, vous êtes en train de dire, ah, oh, c'était pas très bien. Donc, je vous vois vraiment faire des hauts et des bas. Voilà.
Mais je suis d'accord avec ça, justement, je voulais rebondir là-dessus sur ce culte un peu de la performance.
Ouais.
Où il faut absolument tout entendre, etc.
Ah, ça, c'est pas nouveau, ça.
Ouais, mais c'est le problème.
Comme si la pop culture. On atteint un point de.
Autant pour l'info, déjà, je trouvais ça un peu compliqué de dire j'ai peur de passer en mode avion parce qu'on va peut-être louper un truc grave qui se produit. Mais quand tu te forces à dénaturer une œuvre culturelle simplement pour dire je l'ai vu, en fait, tu l'as pas vu, tu l'as subi, mais tu l'as pas vu. Fin...
Mais il y avait aussi le fameux lire en diagonale qui existait depuis très longtemps. Mais alors, tu survoles un peu un livre et puis
moi personnellement, tu parlais de qui ne feuillette pas des livres. Moi, perso, j'ai jamais feuilleté un livre.
Ah, moi, j'ai lu des trucs en diagonale.
J'ai feuilleté des articles.
Ouais, mais tu feuillettes un magazine, tu feuillettes un article, tu feuillettes pas un bouquin.
Alors,
j'ai jamais fait page 10, page 200, page 300.
Oui, sur un article, est-ce que t'as déjà lu, tu t'es rendu compte que tu faisais un pont en diagonale article et globalement, tu comprenais la globalité de l'article.
Quand tu regardes un test de jeu vidéo, tu vas pas la note tout de suite.
Ouais.
Non, je lis Game Cult et du coup, je sais que tous les jeux, ils ont minimum, maximum 6 ou 7.
Voilà. Non, mais il y a des types qui ont écrit des livres justement sur des techniques de lecture accélérées.
Ouais.
Où ils t'expliquent comment lire en accéléré un livre, comment un livre de 300 pages, tu le lis en une heure.
Exactement.
Tu vas sur Reddit, tu tapes le nom du livre et tu cherches le TLDR.
Tu te spoil, donc là, t'as une fibre.
Est-ce que tu jouerais Elite en accéléré, par exemple?
Ça pouvait me permettre de partir et de revenir du centre de la galaxie fluide, ouais.
S'il y avait un mode x2, tu vois.
Non, ouais, c'est vrai. Mais pour moi, je suis justement fan de l'expérience qui a été voulue par les concepteurs, donc.
Alors, dernière piste sur laquelle je voudrais revenir avec vous. Fibre parle de consommation customisée dans le rythme qu'on a. Et on voit aussi de plus en plus de séries qui jouent vachement sur l'expansion et ensuite la contraction du rythme. Notamment, bref. Ou des séries qui accélèrent, et d'un coup, boum, on a un ralenti et ça repart. On voit de plus en plus ce système où on a un côté genre, à un moment, on va entasser un max de petites informations et d'un coup, on va s'arrêter sur une information importante, repartir dans quelque chose qui est plus en accordéon. On voit de plus en plus. Est-ce que c'est une manière pour vous aussi, quand vous voyez ce genre de choses, comme dit Fibre, c'est d'optimiser un peu en fait le temps et que sur une heure, tu peux faire passer plus de choses en laissant plus de place à un moment clé et en concentrant d'autres choses.
Mais en fait, c'est le principe de la narration, ce que tu...
Oui, mais qui est vachement plus aujourd'hui...
Enfin, je pense pas qu'il y ait une œuvre qui rentre dans un cahier des charges où il doit se passer un truc toutes les 10 pages, par exemple, dans un bouquin, tu vois.
Ah bah ça par contre, si tu regardes le code des séries télé US,
ouais, c'est très codifié.
Il y a un cliffhanger tous les 22 minutes.
Ouais, d'accord, mais ce que toi tu évoques là, pour moi, ça me rappelle aussi le jeu vidéo qui est fait
bien sûr.
De temps fort, de temps un peu long, plat.
Mais là, j'avais l'impression qu'on voyait même d'un point de vue plastique, d'un point de vue visuel par exemple, des séries qui jouaient vachement sur le côté genre tout s'accélère et d'un coup sur la cascade ou le moment crucial t'as un ralenti et ça repart ou des choses comme ça.
T'as un exemple?
Bref, je jouais vachement dessus, par exemple.
Ouais, mais bref, enfin, c'était une.
Après, du ralenti,
une expérience joué, aussi.
Oui, mais bref, alterner des tunnels et puis des moments genre, ouais. Il y avait un blanc entre les deux persos qui durait 5 secondes et le. Et
après, ouais, donc c'était incroyable. Énorme, ouais.
Et c'est un accordéon, enfin, bref, un des représentants parfaits de cette culture où on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit.
Tout ça dans un format très court.
Et on met en valeur beaucoup de choses.
Il y a un film qui fait un peu écho avec ta demande et aussi à la chronique en général, c'est Rogue One. Ouais. Rogue One, c'est un film, vous l'aimez ou pas, mais si vous n'avez pas vu les autres Star Wars, ouais. Il a moins de sens et moins d'intérêt en fait.
Ouais.
Et ça c'est typiquement.
Même si pourtant on essaie quand même de raccrocher les wagons de manière totalement subtile.
Non mais comment dire, donc ça c'est un exemple de la consommation étale, c'est-à-dire que t'es obligé de voir tout le reste ouais. avant pour comprendre ce film. Et justement dans le coup, ça pourrait être un peu le ralenti, c'est-à-dire tu peux avoir toutes les informations, tu peux te les spoiler d'un coup de tous les Star Wars et tout d'un coup hop t'as ce film qui arrive, Rogue One qui est un peu une sorte de clé de voûte quoi, voilà.
Et pour le coup ouais. tu sais exactement, c'est comme pour Titanic Rogue One, tu sais exactement comment ça finit.
Oui, il est assez intéressant.
Oui, c'est la grand-mère avec le médaillon là.
Ouais, ouais, elle le jette à la fin du Faucon Millenium.
Bon allez, on lancera un petit débat sur le forum, en tout cas sur la consommation de nos auditeurs. Est-ce qu'ils ont le sacrilège d'écouter 404 en 1x25? Même à 1x10, je suis un peu vexé.
Oh bah alors, prépare-toi à être vexé.
Et s'y reviendront sur tes réflexions, en tout cas sur notre mode de consommation à géométrie et rythme variable. En attendant, on attaque tout de suite la deuxième FAQ qu'on vous a posée au piol. FAQ. Pour cette deuxième question que nous vous avons posée lors de notre soirée au piol, on allait dans le troll direct, on a rebondi sur une des chroniques de 404 sur les hackers de l'attention, et on vous a demandé qui était la personne qui vraiment avait pris en otage votre cerveau entre Donald Trump et Cyril Hanouna, tout simplement.
C'est une question extrêmement difficile, mais je pense honnêtement prendre Trump pour une seule raison, le gars dit n'importe quoi, tout le monde l'écoute, il a pas le temps, il est... On dirait une fusée. Moi, je comparerais Hanouna, tu vois, c'est une Renault 4L. Et Trump, c'est une fusée qui va sur Mars, tu vois.
Hanouna, parce que ça reste quand même un clown drôle, alors que Trump, c'est un clown triste.
On va dire Trump, parce qu'il a une échelle plutôt internationale, quoi. Vraiment, il a le niveau au-dessus.
Alors là, je vais choisir Trump, parce que Hanouna, au moment où il rigole, ça commence à être un signal d'alarme, donc faut que je parte.
Trump, il se démerde bien en ce moment. Hein. Il est fort, je trouve.
Alors, c'est compliqué. Trump, parce que au moins on rigole avec sa gueule.
Eh bien, je préfère. Je préfère Trump. Parce qu'on sait au moins qu'il va pas durer.
Bah, Donald Trump, il a quand même été élu président des États-Unis. Donc, je pense que au niveau mind game, il est au-dessus du game. Hein.
Je pense que Cyril Hanouna pourrait se présenter aux présidentielles françaises vu que Trump est passé. Voilà, en gros.
Ah, bah, Donald Trump. Parce que je pense qu'on n'aurait pas pu l'imaginer en fait.
Donald Trump.
Parce que
je peux vraiment pas blairer Cyril Hanouna.
Oh putain, Trump. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va finir plus vite qu'Hanouna.
Trump parce qu'il nous. Comment dire, il nous surprend toujours. Hanouna il se tape la tête avec des poissons, c'est. Voilà quoi.
C'est un peu la peste ou le choléra là. Alors, je vais raisonner dans l'autre sens. Je vais pas dire préféré, mais celui que je déteste le moins. Peut-être Hanouna parce qu'il y a moins d'enjeux derrière, je pense. Enfin, il y a plein de gens qui l'écoutent et quand il se passe des choses un peu critiques, c'est pas terrible. Mais Trump, ça me fait vraiment pas rire du tout. Vraiment pas. Donc, j'ai pas de préféré. Juste Hanouna, c'est le moins pire, si je puis dire.
Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux. Disons que Donald Trump, il faut suivre parce que ça nous concerne, c'est la géopolitique, c'est quelque chose de très important. Maintenant, celui qui me hack le plus au niveau de l'attention, c'est mon mari, parce que forcément, on regarde un peu tout ce qui se passe et on réagit. Donc la moindre phrase devient un buzz dans le cœur. Donc voilà, c'est plus du domaine de l'intime qui me fait réagir. Maintenant, je reconnais, et après cette émission-là, je trouvais ça super intéressant de voir le pouvoir de ces gens-là sur les réseaux sociaux. Effectivement, il faudrait s'en rendre compte et essayer de se vacciner contre ça. Je pense que ce serait un bon remède pour être plus libre.
Je dirais Cyril Hanouna.
Merci Audrey Pulvar.
Parce que en fait, je m'en bats les couilles des États-Unis. Et donc Donald Trump, je m'en bats les couilles. Et donc dès que je vois un truc sur Donald Trump, je m'en bats les couilles. C'est pas mon pays, je m'en fous.
France first.
Cyril Hanouna, ça me touche au quotidien.
Moi, je dirais... Cyril Hanouna, clairement, en français, c'est Cyril Hanouna. C'est quand même le mec qui a racheté Malaise TV. Je sais pas si ça t'a choqué.
Je crois que c'est une rumeur, une fausse rumeur. Mais peut-être que c'est une manière d'hacker ton attention, je sais pas.
Ah, mais Malaise TV, moi, je suis... Je suis quelqu'un qui me nourrit des petits dramas et des petites saveurs croustillantes de Twitter, et clairement ça en fait partie. Et clairement, non, Cyril Hanouna, ça fait bien trop longtemps qu'il squatte l'audimat à balle, et ouais, non, clairement il nous a tous piratés, Cyril Hanouna.
Bon, on voulait faire une petite question légère et taquine.
Gros hack de Trump.
Il y a une auditrice qui a hacké l'attention aussi, je crois. Ouais.
C'est notre cinquième chroniqueuse, en fait.
Ouais, bon, Trump, ouais, bah, grand gagnant des hackers d'attention, donc les gens qui rentrent dans ta tête même si tu veux pas.
C'est plutôt Fillon aujourd'hui, hein.
Ah oui, non, mais on pouvait pas poser la question.
Si on l'avait posé avant, je pense qu'on aurait eu des problèmes. Ça aurait voulu dire 2-3 trucs.
T'es dans le caminet noir, Daz ?
Bah ouais, pourquoi pas ? C'est raciste ou pas comme question ?
ça tourne mal.
On avait dit qu'on parlerait pas de politique. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique. Et c'est l'ami Daz qui arrive.
Sujet numéro 3.
Avec le streaming, nous accéderons à toute la musique du monde. Encore un beau pipeau.
T'es content de ce titre ?
J'adore ce titre. Je me le suis encadré. De tout temps.
Ah oh, putain. L'homme. Ah là là, le salaud. Ah, non, c'est un trop dégueulasse.
Non, ça y est, je la fais scolaire. C'est un fait. En 2017, le streaming, qu'il soit audio ou vidéo, est désormais un incontournable pour les adeptes de la philosophie qui consiste à payer en échange d'un service supposé avoir un impact positif sur nos vies. Si vous l'ignorez, c'est cette même philosophie qui se cache derrière la télécommande infrarouge, l'automobile, l'aviation, les armes à feu et la prostitution. Ça s'appelle le capitalisme et vous allez sûrement en entendre parler d'ici peu. Personnellement, je me suis inscrit sur Spotify en 2010 et je suis passé premium en 2011. Donc premium, ça sous-entend que t'as plus de publicité quand t'écoutes tes chansons.
Ouais.
Depuis, j'ai lâché la bagatelle de 659,34 €, soit 66 mois d'abonnement. Avec ces 659,34 €, j'aurais pu acheter 55 albums, voir 60 films en 3D chez UGC, ou améliorer mon alimentation en mangeant 88 kebabs complets sauce algérienne. Au lieu de profiter de cette farandole de plaisir, j'ai choisi de confier mon hygiène audio à une plateforme suédoise. Depuis 2011, donc, j'ai fortement ralenti ma consommation de P2P, donc de peer-to-peer.
Je sais pas si c'est t'as plus de morceaux qui passent miraculeusement sur ton disque dur.
C'est bizarre, hein, je les trouvais par terre et depuis 2011, je les trouve plus. Voilà. Je me suis mis à écouter des rappeurs norvégiens et des beatmakers ouzbeks. J'ai redécouvert des classiques avec passion et me réjouis du zéro maintenance de ma bibliothèque de MP3. Tableau idyllique, n'est-ce pas ?
Ouais, on dirait une chronique sponsor par Spotify, dites donc.
Du moins jusqu'à ce que je découvre le catalogue.
J'imagine Daz qui se retourne comme la marmotte, là, comme le petit chat de prairie.
Le catalogue, enfin surtout ses aléas. Le catalogue, c'est le seul truc dont se gardent de parler les plateformes de streaming quand vous vous abonnez. J'ai vérifié, et du côté de Spotify, on vous dit par exemple que le catalogue Spotify compte plusieurs millions de morceaux. Deezer, ils vont vous dire « Flow my music ». Mais ça veut rien dire. Alors après, Deezer, il dit « Parmi 43 millions de titres, retrouvez de vieilles connaissances et laissez-vous séduire par de nouveaux coups de cœur. » Apple Music dit « En mode play, non-stop. Apple Music, c'est vraiment...
Avec la voix de Johnny Ive.
C'est l'épitome de... Bon, bref. Google Play Music dit des millions de titres à portée de main, sans publicité. Mais aucun de ces services, alors il y en a d'autres, hein, je les ai pas tous cités, mais il y en a d'autres qui vous proposent de la Wi-Fi, etc. Aucun de ces services ne dit, attention, le catalogue accessible est susceptible de changer sans préavis. Et après quelques mois, c'est difficile de scroller d'une main, ou années d'utilisation, on finit par s'en rendre compte.
Ouais.
Une condition toutefois pour l'observer, dans Spotify par exemple, il faut activer l'option « Afficher les chansons non disponibles dans les playlists ». Vous constaterez alors parmi les titres présents dans vos playlists que certains sont grisés. Une façon pour Spotify de dire « On l'avait, on l'a plus, mais voilà, on le récupère un jour, Inch'Allah ». Ces embrouilles de catalogue sont restées relativement discrètes jusqu'à ce que Tidal et Apple Music entrent dans la danse. Un des arguments de vente du service d'Apple, par exemple, c'était de dire que l'intégrale des Beatles était dispo chez eux et uniquement chez eux.
Ouais, exclu.
On a connu meilleur argument, surtout en 2015. Mais il faut pas en vouloir à la pomme, hein, parce que musicalement, ils sont restés bloqués en 84. Par exemple, en 2014, ils étaient persuadés que ça ferait plaisir à tout le monde d'avoir un album de U2 gratuit et impossible à dégager de nos téléphones. C'est Apple. Du côté de Tidal, la plateforme... Alors, je sais pas si on dit Tidal, Tidal. Moi, je dis Tidal parce que je suis un Américain.
Ouais. Tidalé. C'est comme Ulule, tu sais.
Tidalé comme Ulule, Adobe, ouais. Quoi.
Tidalé.
Bon, je vais dire Tidal. Donc, racheté par Jay-Z, on tente d'amadouer le client en faisant signer des popstars. On se rappellera de la pose légendaire de Madonna, est la pose que j'adopte personnellement désormais dès qu'on me demande de signer un truc. Mais surtout, on joue avec les exclusivités des artistes signataires.
Par exemple, l'autre jour, je me suis dit que je m'écouterais bien Big Pimpin' de Jay-Z. Donc j'ai appuyé sur play et...
Le silence.
Le malaise.
Numérique.
On n'entend rien, là.
C'est le but.
Voilà. Finito Ovito sur Spotify. Enfin, si. Mais non. Certains albums ont disparu, en gros tout ce qui se passe après 1998. Donc de Jay-Z sur Spotify, on a l'album Reasonable Doubt, on a In My Lifetime et Hard Knock Life. Les puristes diront que ce sont les meilleurs albums. Ensuite, c'est totalement piffé. On trouve certains featuring parce que l'autre artiste, lui, il est bien présent intégralement sur Spotify. On trouve des compiles un peu obscures, des best-of de Troisième Zone, des remixes. Bref, c'est le maxi bordel. Plus radical que Jay-Z, Taylor Swift, elle, en 2014, elle a carrément décidé de retirer ses titres de toutes les plateformes de streaming parce qu'elle pensait que les gens ne se feraient pas payer à la juste valeur du travail apporté. En fait, il se murmure qu'elle bosse sur un truc perso qui ferait à peu près la même chose, mais en pas pareil. À l'inverse, d'autres reviennent, comme Prince, après que ses ayants droit ont fait sauter en février dernier, donc le jour des Grammys, l'exclusivité signée avec Tidal. Pardon. Des artistes vivants qui disparaissent pendant que d'autres décédés reviennent. Je m'attendais pas à ça, comme disait Patrick Bruel.
Dernière fois, tu me refais Patrick Bruel.
Tu veux? Ouais, parce que ça ressemblait un peu à Maître Gims. Je m'attendais pas à ça.
Sylvain, tu peux t'attendre à Patrick Bruel ou pas?
C'est pas mal.
Dernière pratique en date, l'exclu temporaire. Donc certains artistes sortent d'abord sur une plateforme pendant X semaines ou mois avant d'arriver sur les autres. L'exemple le plus connu, je pense le premier réellement sur lequel on a réellement communiqué, c'est l'album Blonde de Frank Ocean qui est sorti l'année dernière en exclusivité sur Apple Music pendant 2 semaines.
Celui de Rihanna, de Beyoncé.
2 semaines, aussi, hein. Ouais. 2 semaines en temps internet, ça fait à peu près 6 mois, quoi.
Ah bah là, du coup, tout le monde le trouve par hasard sur son disque dur le lendemain.
C'est bizarre, ouais. Bref, vous l'avez compris, le marché du streaming audio, c'est devenu un petit peu le Far West. Pourtant, contrairement au streaming vidéo qui, lui, doit s'accommoder de vraies lois et des contraintes comme la super célèbre chronologie des médias, le foutoir apparent des plateformes de streaming audio est uniquement le fruit des négociations permanentes de catalogues et donc de négociateurs que j'imagine fumer le cigario et se promener avec des lunettes aviateurs, un attaché case menotté à leur poignet. Je suis pas expert en propriété intellectuelle, mais de ce que j'ai cru comprendre, en demandant sur Twitter, les plateformes négocient les droits sur...
C'était ce matin à 10h, on l'a tous vu.
Non, mais j'avais regardé avant, je voulais juste être validé. Les plateformes négocient les droits des catalogues auprès des maisons de disques, avec comme critère une certaine profondeur de catalogue, un périmètre géographique, et puis une durée contractuelle. Du coup, on peut avoir un artiste, mais pas l'intégralité de ses œuvres. Ça, c'est la profondeur.
Ouais.
Il peut être dispo en Suède, mais pas en France. Ça, c'est le périmètre géographique.
Ouais.
Et puis, on peut l'écouter en janvier dernier, mais plus maintenant. Parce que ça, c'est la durée
contractuelle. Magnifique. Voilà. C'est magnifique.
S'il est évident que ces nouveautés sont âprement discutées, que les nouveautés, pardon, sont âprement discutées, le back catalogue, donc le reste, en gros, lui donne l'impression d'être géré un petit peu comme un stand de veste en cuir dans une contre-allée à Clignancourt, en fait. C'est sans doute ça qui explique que je ne verrai jamais de mon vivant débarquer l'album Non-Fiction de Black Sheep, pourtant sorti en 1994 sur Spotify, alors même que leur premier album de 91, lui, il est dispo depuis 5 ans sur Spotify. Alors je le demande. Est-ce qu'on se ferait pas un peu niquer? Donc, here we are, Born to be King, avec la 4G dans nos mains, avec la fibre optique à la maison, des pétaoctets de données à dispo pour faire péter l'ancien monde, et une segmentation du marché de la musique comme elle n'existait pas avant l'arrivée du streaming. Vous imaginez si justement, à l'époque pré-internet, vous vous pointiez au Virgin Megastore des Champs, Rest in Peace, ou à la Fnac des Champs, elle est encore ouverte.
Bientôt Rest in Peace.
Et qu'on vous disait que le dernier album de Réciproque, celui avec le single Balance-toi, n'était disponible que chez Carrefour et ne serait jamais référencé chez eux. Scandale! Pourtant, c'est exactement le monde qui nous tend les bras. Alors Spotify, il est sympa quand même, lui. Les autres, je sais pas trop, mais Spotify, en tout cas, il est super sympa.
Ah, c'est le retour de la chronique sponsor, là.
Spotify, si tu m'entends. Quand un morceau se fait retirer, il essaye de nous trouver un substitut en se basant sur... je sais pas. Mais au moins, il essaye.
Un remix dégueulasse.
Voilà, donc il y a 2 ans, à la faveur d'un renouvellement de catalogue, mon What You Won't Do For Love de Bobby Caldwell s'est fait remplacer, sans qu'on me demande mon avis, par une version karaoké philippine ou indonésienne. Ça m'a un peu surpris, j'étais en voiture, j'ai failli faire une sortie de route. Et 2 semaines plus tard, je voulais faire écouter justement ce morceau incroyable à mes proches, et Bobby Caldwell était revenu.
va comprendre. Donc même si le marché est en expansion, les modèles économiques ne sont pas encore totalement secs. Donc ce qu'on connaît actuellement, ce qu'on subit actuellement, on est à peu près certain que ça va aller en s'empirant. Parce que chaque plateforme va essayer de se différencier des autres en négociant des exclus pour mettre leur offre en avant. Du coup, au studio 404 Consulting, on réfléchit à des moyens qui permettraient de faciliter la vie des clients qui sont captifs de ce bourbier de négociations qui sont absolument tout sauf transparentes. Si vous bossez chez Spotify, Deezer, Qobuz, Apple Music ou autre, prenez des notes. La première idée, ça serait l'utilisation de ce qu'on appelle le changelog.
Ouais.
C'est quand même relativement classique. On est tous habitués au changelog quand on télécharge une application. En tout cas, une mise à jour qui nous explique ce qui a changé depuis la dernière fois.
J'ai l'impression que le changelog, on le conseille souvent en politique.
Mais parce que si ça fonctionne pour l'IT, ça fonctionne pour la vie. Hein. C'est...
Écrivez-le sur vos murs.
C'est mon credo.
Blast 2022.
Si ça fonctionne pour l'IT, ça fonctionne pour la vie.
Mais oui, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, on va sur Spotify, les plateformes, elles nous tiennent généralement au courant de ce qu'ils ont rentré en catalogue. En tout cas des sorties récentes. Par contre, ils ne tiennent pas du tout au courant de ce qui rentre, mais qui daterait par exemple de l'année dernière ou d'il y a 3-4 ans. Sauf quand c'est un artiste qui était iconique. Du coup, un endroit qui nous indiquerait, alors je ne demande pas ce que ça soit en front page du truc, hein, mais un endroit qui nous indiquerait de manière hebdomadaire les entrées et les sorties de catalogue, moi je pense que ça sera un plus. Bon, c'est que mon avis. Ensuite, on pourra avoir des notifications. Qui nous permettrait de savoir que un titre qui est compris dans une de nos playlists n'est plus dispo.
Vient de dégager quoi.
Voilà, juste salut, telle chanson, elle a disparu.
Et un remboursement au prorata.
Alors voilà, ça c'est quand tu commences à faire rentrer fibre optique dans le truc. Pour l'instant, on va rester idéaliste. Et donc en cliquant sur cette notif, on pourrait éventuellement choisir de laisser le titre dans la playlist, de le remplacer par un substitut, un remix, un live, ou pourquoi pas si on est sur Spotify, une cover en karaoké philippin, par exemple. À l'inverse, si le titre redevient dispo, une notif pourrait aussi prévenir l'utilisateur. Hey, salut, j'ai fait revenir.
La gueule de ton téléphone déjà qui est chargé. Non, mais dispo. Alors,
justement, tout ça.
Désir parti. Non, il est revenu.
Ça serait justement paramétrable, évidemment. D'accord. Mieux encore, les algorithmes de curation de Spotify sont assez précis dans ce qui te conseille d'écouter.
Chronique sponsor.
Peut-être que ceux de Deezer aussi sont super précis. Je sais pas, moi, ça fait 66 mois que je me fends de 9,99€ par mois. Donc, je parle de ce que je connais. Mais en tout cas, vu la précision des trucs, je suppute qu'il doit y avoir stocké quelque part chez eux un historique des recherches qui sont faites sur la plateforme. Donc, si un album ou un artiste que j'ai cherché, mais pour lequel j'ai pas lancé de lecture à l'issue de la recherche, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Ouais.
Ok. Eh ben, si la plateforme
le rentre dans le bercail.
Le contenu de ma recherche dans son catalogue, elle pourrait me balancer une petite notif en disant hey, tu te rappelles, t'avais cherché Taylor Swift et maintenant elle est là. Pas mal, 404 Consulting, les gars.
Beaucoup de bienveillance de Daz pour lui-même, je trouve.
Hein. Ouais, toujours.
La vie qui serait bienveillante ce soir.
Je suis bienveillant envers tout le monde et moi le premier. une autre possibilité, ça serait de mettre en place un moteur de recherche multiplateforme. Donc juste un truc qui permet d'interroger toutes les plateformes simultanément. Histoire de savoir si enfin ce putain de Murder Was the Case de Snoop Doggy Dogg ou la bande originale de Menace to Society sont toujours dispo quelque part dans l'univers, s'il vous plaît. C'est une question que tout le monde se pose. Enfin, on pourrait avoir, dernière amélioration que moi je vois, c'est les fonctions de migration. Donc dans la même veine que la téléphonie mobile ou la banque, qui ont simplifié leur procédure de migration, moi personnellement, je m'abonnerais au service qui me proposerait de migrer toutes les playlists que j'ai déjà fait, par exemple sur Spotify, vers une autre plateforme en conservant le nom et l'ordre des titres.
Si cette plateforme a tout.
Si elle, voilà, mais du coup, avec le moteur de recherche qu'il y a juste avant, je saurais si la plateforme a tout ou pas.
Oh là là, quelle galère.
Oui, tu peux même avoir un comparateur de services qui pourrait te dire la meilleure en fonction de tes playlists, la meilleure plateforme c'est celle-là.
Vous devriez aller là ou là. Qui est le moins cher.com.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, ça pourrait même être fait par une des plateformes juste pour mettre en avant son catalogue, je m'en fous. Enfin voilà, bon, ce sont quelques idées qui permettent d'espérer en tout cas que les pratiques qui actuellement font chier à peu près tout le monde, moi le premier depuis 66 mois, change. C'est-à-dire que les fournisseurs, ils prennent conscience que s'ils font rien et si on continue sur la route du Far West là qu'ils nous promettent, on va tous se retrouver en fait à aller sur YouTube, qui reste pour moi la première vraie plateforme de streaming audio en ligne. Quoi.
Exactement. YouTube qui reste une vraie plateforme de streaming audio.
Mais alors YouTube, j'en pensais du bien aussi.
Ouais.
Et j'avais écouté des morceaux justement de Black Sheep. Black Sheep, si tu m'entends, un jour ton album arrivera sur Spotify. J'ai écouté ça hier sur YouTube en écrivant la chronique.
Ouais.
Et j'ai voulu relancer la vidéo YouTube sur mon portable.
Ouais.
Et il m'a dit, eh ben non, parce que ça marche que sur un ordinateur.
Oh, ouais. La jungle.
Pourquoi? Et ça, c'est vraiment de l'enculade.
Parce que tu as
c'est les mecs qui mettent en ligne ça.
Tu peux bloquer ta vidéo pour qu'elle ne soit visible que sur le desktop.
C'est vraiment les mecs qui mettent en ligne ou c'est un truc genre de BMG Universal?
Non,
veut que tu sois
les mecs qui mettent en ligne, c'est une pauvre case à cocher.
Ouais, mais si les mecs qui mettent en ligne, c'est Vevo et.
C'est Vevo et tout. Bon,
c'est
alors,
bizarre.
Daz,
ras-le-bol.
Ras-le-bol de la part de Daz.
Mais en fait, je me rends compte
ras-le-bol
que
le streaming
devait nous simplifier la vie. En fait, une
voilà, mais en fait, c'est triste parce que du coup, ça simplifie énormément la vie. Mais en fait, tu te rends compte, à force d'écouter de ces plateformes-là, Spotify, que ce soit Spotify ou autre chose, qu'il y a un panel de ta culture musicale que tu n'écoutes plus jamais, en fait. Juste
c'est
parce
vrai.
Qu'ils n'ont pas les morceaux. Et tu t'en rends compte quand tu retournes dans iTunes de temps en temps en disant putain, mais c'est vrai! Ce truc-là, je l'ai pas écouté depuis 8 ans. Voilà.
Moi, je garde des MP3, je sais qu'ils ne sont pas disponibles.
Ouais, mais du coup, moi, j'ai perdu 60 gigas de MP3. Je
ouais.
sais que j'avais des perles dedans, tu vois.
Ouais.
Et je suis en train d'essayer de les récupérer, mais ça se fait morceau par morceau en me disant « Ah putain, c'est vrai, ça, ça, ça. »
Ouais, quelle galère.
Et c'est l'enfer, en fait. Et le problème, c'est que tu n'as aucune plateforme qui te propose l'intégralité de ce qui existe.
Et si t'écoutes en x2 quand c'est disponible pour être sûr de pouvoir un maximum.
Surtout de les plateformes. Tu testes tout.
Est-ce que tu écoutes de la musique, est-ce que tu passes par des plateformes de stream pour écouter
alors
de la musique?
Je pense
parce que t'es encore à l'ancienne avec tes MP3 en local.
Non, j'ai dû prendre Spotify parce que moi, justement, la gestion du catalogue dans mon ordinateur, c'était vraiment un problème. Vous savez que le rangement, tout ça.
Ouais.
Et donc j'ai vu Spotify, je fais ouais, le Messi. Et donc ça devait être à peu près au même moment que Daz. Et donc je suis ravie d'apprendre que j'ai dépensé 600 euros. Parce que.
650 euros.
Ouais. Parce que je m'en sers et je me sers des algorithmes, enfin des playlists faites automatiquement pour moi et elles sont vraiment relativement bien faites. Mais effectivement, je me suis prise plusieurs fois le truc grisé et ça me saoule. Mais tout ce que ce truc dit, en fait, de ce que Daz dit, c'est qu'en fait, Spotify n'a pas réussi à suivre le comportement des utilisateurs. C'est-à-dire que quand Spotify est arrivé, on était trop contents parce que ça réglait plein de nos problèmes.
Ouais.
Pas tous, mais beaucoup. Donc on se disait, super, c'est le meilleur service. Aujourd'hui, ça nous offre des trucs, mais ça règle pas tous nos problèmes. Donc
bah,
en fait,
veut...
ils se sont arrêtés à un moment.
C'est
vrai. Et genre, ils ont pas compris que l'expérience client, faut vraiment qu'elle soit optimale pour qu'on reste chez eux, parce que maintenant, il y a l'offre, il y a de la concurrence.
Ils sont
quoi.
Bloqués simplement par le juridique, quoi.
Ah, complètement,
ouais. C'est juste
oui,
ça.
Mais ils pourraient, juste avec ton système de notif, qui est un truc d'utilisateur, pas juste de droit.
Ouais,
ben,
ouais,
en
ouais.
fait, ils amélioreraient
oui.
leur service et
ouais.
tout le monde serait content. En fait, je lisais le truc Jeff Bezos a fait sa lettre aux actionnaires, là.
Ouais.
Et il expliquait comment la culture d'Amazon, qui est par ailleurs une entreprise qui fait des choses horribles, mais qui disait,
quand on dérape,
en fait, on améliore toujours l'expérience client parce qu'en fait, les gens sont toujours surpris en bien que ça soit plus vite, plus efficace, même s'ils l'ont pas demandé.
Oui.
Et en fait, Spotify, ils sont arrêtés à un moment. Ils ont cru qu'ils offraient plus de trucs à leur playlist, mais en fait, non. Et ils ont frustré plus qu'autre chose.
C'est vrai qu'on était hyper indulgents au tout début de Spotify en se disant, allez, il n'y a pas toute la musique du monde, mais ça va se construire au fur et à mesure. Mais
non, mais le catalogue, c'est étoffé.
L'interface
quand même.
Est tellement cool et tout, ça s'est étoffé. Non, mais le pire, c'est quand il y a des trucs dispo qui sont plus dispo après.
Ouais, c'est
là,
ça
tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible.
Et c'est pas de leur faute.
Et c'est pas de leur faute.
Oui, mais ils préviennent
c'est
pas
de leur faute,
oui,
mais c'est un
pas.
Peu de leur faute quand même. À partir du moment où ils te le disent pas clairement.
Oui. En plus, ils te font un petit message gentil, genre vraiment, on fait tout pour récupérer cette musique, mais.
Genre Taylor Swift, mon Taylor Swift,
ouais.
je m'en fous, tu vois, mais autant ne pas
quoi
avoir.
T'écoutes pas Taylor
ça
Swift.
Ça fait tu l'as dit trois fois quand même dans ta chronique.
Ouais.
J'ai
que je m'en foutais de Taylor Swift.
Non, non, qu'elle te manquait.
Non, c'est vrai, je m'en fous vraiment. Autant, tu vois, Diantel, j'aime bien, mais Taylor Swift. Si avoir deux trucs qui sont dans mes shame list, mais bon. Là-dessus, je sais plus ce que je voulais dire, donc vas-y, Fibre.
Voilà. Le mec qui coupe la parole pour la rendre, quel relou.
Sylvain,
après Fibre, est-ce que déjà vous utilisez des services de streaming? Est-ce que ça vous a fait chier? Ou est-ce que c'est quand même plus simple que ce qu'on faisait avant?
C'est quand même plus simple qu'avant.
Ouais.
Et moi, j'écoute plus de musique que si Spotify n'avait jamais existé.
Ouais.
Après, effectivement, je suis tombé sur des petites titres grisées, ça casse les couilles, mais c'est pas la fin du monde. Mais par contre, moi, je trouve que c'est hyper similaire avec Netflix, ce qui se passe avec Netflix en ce moment. C'est-à-dire que moi, je suis abonné à Netflix, du coup, je télécharge beaucoup moins de séries.
Ouais.
Mais je suis quand même obligé d'en télécharger parce qu'il y a des séries qui ne sont pas encore ou qui ne sont pas du tout sur Netflix.
Ou qui ne seront pas.
Et je pense aussi aux jeux vidéo, aux exclus des jeux vidéo sur les plateformes. Il y a quelque chose d'un petit peu similaire aussi, de se dire, bah, j'ai pas envie d'acheter une PlayStation 4 juste pour ce jeu, et bah tant pis, je fais une croix sur ce jeu, j'y jouerai jamais, quoi.
Ouais, mais la différence, c'est que le truc le plus rageant, c'est que bah, le morceau, par exemple, tu l'as eu.
Ouais, non,
là,
mais
c'est comme si,
c'est
voilà,
je comme si
t'avais
ça
Uncharted,
horrible, en fait.
Uncharted sur ta Xbox, et après on te fait, ah non, en fait, on te l'enlève parce que c'est une exclue PlayStation. Ah,
mec,
okay.
Qui vient reprendre la galette chez toi. Non, désolé.
Fibre, comment t'écoutes de la musique?
Sur YouTube.
Ouais.
La plus. Alors.
J'écoute pas de la bonne musique comme vous, j'écoute de la musique de jeux vidéo ou de la musique traquée.
Ça peut être de la bonne musique.
Attends, là tu vas être extrêmement condescendant et même dédaigneux avec la musique de jeux vidéo, fille.
Bah ouais, non mais je sais que les gens n'ont pas, enfin même si le chip tune c'est devenu un petit peu à la mode, mais la musique traquée ou de la musique de jeux vidéo, les points mode par exemple, c'est des choses qui existent pas, t'oublies sur Spotify tout ça, donc c'est YouTube. Ouais, enfin non, n'exagérons pas. Mais par contre j'ai une remarque à faire, c'est que effectivement il y a pas tout sur Spotify, loin de là. Les millions qui nous promettent, c'est des choses qui nous intéressent pas. Et pour garder quand même leur base d'utilisateurs, ils peuvent compter sur l'inertie, comme Daz, par exemple. Il ne s'est pas encore désabonné, je ne sais pas pourquoi. Mais il aussi, je trouve qu'ils ont un comportement endogène. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire les découvertes de la semaine. Et en fait, les découvertes de la semaine, c'est souvent des choses qui sont très similaires à ce que tu écoutes déjà.
Oui.
Donc en fait, c'est pas vraiment de la découverte, c'est des choses. Ils te laissent dans ton univers. Et j'ai l'impression que la secte des Spotifyers, ils écoutent que les mêmes trucs.
Spotifos ou
ils écoutent pas la même chose que Daz, et Daz écoute pas.
Ouais, mais en gros, si je mixe votre univers, on reste dans une mini bulle par rapport à la musique mondiale.
Moi, par exemple, j'écoute principalement de la soul et du hip hop. J'ai pas du tout envie d'écouter de la polka ou d'autres trucs comme ça que j'ai jamais demandé, tu vois. Tu me mets ça dans ma playlist de la semaine, je te mets un front kick.
Alors, il y a un service de streaming qui va arriver en France là bientôt qui s'appelle Pandora.
Et Pandora, oui, ça existe depuis longtemps, ça.
Oui, ouais, il est complètement bloqué en France. Et Pandora, en fait, il prend les musiques que t'aimes bien, il analyse les lignes de basse, il analyse les rythmiques et dit, si vous aimez cette musique-là, vous aimerez celle-là.
Mais Spotify, il te fait ça aussi.
Ouais, c'est vrai.
Bon, ça, je sais pas trop, mais je me dis peut-être que tu non, il y a peut-être de la polka qui ressemble à ce que tu aimes, hein.
Fille va découvrir Spotify, mais c'est trop bien gaulé.
Toutes les
semaines, il me suggère un truc.
Non, mais j'ai un compte Spotify. Mais malheureusement,
c'est tellement la routine de fibre en plus.
Non, je pourrais faire ça, mais malheureusement, effectivement.
On est tous lol d'un autre.
Et je comprends pas pourquoi quelqu'un ne crée pas un player qui va chercher les vidéos sur YouTube et qui joue les sons des vidéos.
Ça s'appelle YouTube Red. Et c'est un abonnement à YouTube qui te permet de regarder les vidéos YouTube
sans les regarder, c'est vrai?
Oui, sans pub, et surtout de pouvoir écouter les vidéos YouTube.
C'est-à-dire, j'affiche la vidéo, je mets mon téléphone en veille, et le son continue.
Non, mais t'as même pas la vidéo, c'est qu'il te file le MP3 directement. C'est pour ça que je suis abonné à Spotify, mais que pour moi, comme tu dis, Dash, je suis très d'accord, la meilleure plateforme de streaming de musique, c'est YouTube.
Ouais, je suis d'accord.
Mais c'est parce que YouTube, quelque part, jouit aussi de... Tu vois, si Spotify est arrivé en te proposant 30 millions de titres, un peu à la Nick Sam...
Ouais.
Je pense qu'il serait fait tacler très vite. Et à mon avis, YouTube, si vraiment... Parce que nous, on est tous au courant qu'on utilise beaucoup la plateforme pour écouter de la musique.
Ouais, bien sûr.
Le jour où les Pascal Niggez, là, ils vont être au courant de ça aussi.
Je crois qu'ils commencent à comprendre.
Ça va être différent.
C'est déjà le cas. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait de catalogue qui manque, mais un des grands enjeux, c'est SoundCloud. Et toutes les plateformes essaient de le racheter parce qu'ils veulent aussi rajouter des covers, des remixes, des sets de DJ, Lego.
Ça va être horrible. Ça va être horrible. Genre, tu cherches un morceau. La dernière fois, je cherchais un morceau de Jay-Z du Black Album.
T'arrêtes de chercher des morceaux de Jay-Z.
Mais oui, mais c'est un bon rappeur.
Tu cherches des morceaux de Jay-Z.
Non, mais c'est un bon rappeur. C'est un bon rappeur et je voulais écouter le Black Album sur YouTube.
Ouais.
Et je suis tombé sur 149 remixes.
Oui.
Parce que le mec avait filé ses acapellas et que du coup, les seuls morceaux de Jay-Z que t'as sur YouTube, c'est pas les siens.
Donc, on est d'accord que les plateformes de stream qui devaient nous simplifier la vie, nous faire accéder au fantasme de la musique totale,
genre la licence globale.
On est loin de là, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Apple Music force sur les exclus et que je crois que Spotify force sur le fait qu'ils ne veulent pas imposer d'exclus. Ils disent, nous, on fera jamais signer d'exclus un artiste parce que c'est pas la philosophie.
Ouais, bah on verra quand ils continueront à se faire tailler des croupières. Mais c'est vrai que c'était, enfin, il y avait genre une paix des braves au début du truc.
Ouais.
Quand Spotify est arrivé parce que l'avantage principal chez eux, c'était le fait que quand t'appuies sur play, le son démarrait tout de suite, il n'y avait pas de buffer.
Ouais.
C'était un de leurs arguments. Et c'est vrai qu'il y a eu une paix des braves à ce niveau-là, c'est-à-dire que personne se tirait dessus et c'était cool. Et depuis que Apple et Tidal sont.
Ouais, en fait,
il n'y a pas un Google Music?
Parce que Google Play Music aussi.
Comme YouTube, ça appartient à Google, il y a peut-être des choses à faire. Hein.
Et longtemps, Google Music a été un truc à la Google, c'est genre, on peut le faire, quoi. Il est là, mais on fait pas vraiment la pub du truc.
Ouais, je crois qu'ils l'ont sorti en premier en Inde, plus c'est un truc
Google Music, c'est un truc qui m'a uploadé toute ma bibliothèque iTunes dans le cloud. Gratos.
Ouais.
Le service était hallucinant et en même temps, ils en parlaient pas.
Mais il y avait Groove Shark, je sais pas si vous vous souvenez, qui a fermé. Moi, j'adorais Groove Shark.
Ça a fermé, ça?
Parce que c'était illégal, en fait, Groove Shark.
Ah, voilà, d'accord.
Et mais il y avait tout pour le coup, tu vois.
Alors, dernière question, du coup. Le piratage a révolutionné la musique. À l'époque du téléchargement de musique. Et maintenant, on est passé à autre chose comme le stream qui a un peu arrêté. Est-ce que si on se retrouve avec une industrie musicale qui fait chier les clients, on va se retrouver avec une autre forme de piratage de musique, mais mieux gaulé que les solutions légales, comme on a eu droit il y a 15 ans avec Napster. Est-ce qu'à un moment, si on vous dit, ben,
un genre de popcorn
une plateforme de stream qui est pas vraiment légale, mais qui est collaborative, ouverte à tous, impossible à faire tomber, décentralisée avec toutes les musiques du monde, etc., etc.
Un popcorn time de la musique.
Ouais, ça va tomber au bout d'un an quand même. Ça va finir par tomber parce que popcorn time, c'est.
En fait, oui, les services comme popcorn time, par exemple, ils se basent énormément sur les nouveautés. Ouais. Je pense qu'en fait, on n'aura jamais trop de problèmes pour trouver les nouveautés musicales qui sortent.
Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment trouver des trucs qui ont peut-être été pressés en une série.
Genre
très...
un vieux titre de Jay-Z.
Vous blaguez, mais enfin, attention, Jay-Z, c'est pas mon rappeur préféré. Mais tu vois, Black Sheep, par exemple, tu cherches le CD de Black Sheep. Où tu cherches le CD de MC Solar,
ouais.
son deuxième album, Pros Combat,
ouais.
Bah, bon courage.
Ah, tu vas boulimier,
ouais. C'est vrai.
Bon courage. Ouais, voilà, il faut aller chez Crocodisc ou dans des trucs comme ça.
Toi, les plateformes,
répondre à
ma
question, est-ce que les trucs en privé, piratage, si vous avez une solution de piratage, de streaming pirate, qui était
bah
plus
oui,
pratique.
C'est sûr, Popcorn Time, on y est tous arrivés au bout d'un moment.
Ouais. Moi, j'ai un peu ralenti depuis.
Alors que je payais Netflix, quoi.
Ouais.
Non, mais moi, j'avais Netflix et j'allais sur Popcorn Time.
Moi, j'ai pas tout sur Netflix. Popcorn Time sur les films, surtout, parce que Netflix, la chronologie.
En fait, ce qui a favorisé le piratage, c'est que bah, t'avais plus besoin d'avoir le disque physique pour
surtout t'avais le choix, complet,
t'avais un choix
d'exclusivité, de
je pense que si vraiment ils proposent un piratage qui est beaucoup plus simple que se faire chier à multiplier les expériences sur les plateformes,
ce qui était le cas de Napster en 99, c'était une révolution, c'était archi simple Napster.
Mais est-ce qu'on peut pas imaginer un changement de paradigme à la Benoît Hamon, c'est-à-dire que
message subliminal,
un MP3 universel pour tous,
sachant que tu pourrais toujours de droite.
Non mais aujourd'hui, regardez les Bandcamp. Le Bandcamp, c'est des artistes qui proposent leur musique en disant écoutez-moi et si vous kiffez, vous me donnez un peu. Pourquoi ne pas imaginer que tout le monde fonctionne comme ça, puisque finalement Gangnam Style que tout le monde connaît à travers la planète entière, c'est surtout une vidéo YouTube.
Mais parce que en fait, j'ai la réponse à ça, c'est que Bandcamp c'est super pratique quand tu sais ce que tu cherches. Or Spotify, Apple Music et tous ces trucs là, c'est de la curation et les gens écoutent des playlists, ils écoutent pas des albums
complets. Si t'avais un Bandcamp curationné, algorithmisé.
C'est-à-dire que ça sera un Bandcamp qui te propose aussi de gérer tes playlists.
Mais est-ce que le problème du streaming,
on cherche tous la plateforme ultime d'écoute de musique.
Est-ce que le problème du streaming, c'est que entre l'artiste et toi, il y a 1 million d'intermédiaires qui nous cassent les couilles.
Ah non, il y en a moins qu'avant.
Il y en a moins, mais il y en a toujours.
Bah, les maisons de disques font toujours chier.
Est-ce que le Bandcamp,
Bandcamp à la base a réduit au maximum.
Voilà.
C'est qu'il y a un intermédiaire.
Mais attendez, les titres grisés que vous pouvez pas lire sur Spotify, ça vous ruine vraiment votre quotidien?
Moi, ça me fait chier, ouais. Sur une playlist de 130 morceaux, j'en ai une trentaine qui
moi,
sont grisés.
Moi, franchement,
j'ai écouté Taylor Swift, ça m'énerve.
Parce que moi, la plateforme ultime, je l'ai déjà, c'est Spotify, et franchement.
Mais non, mais moi, j'ai pas Taylor Swift, ça me saoule.
En fait, ça dépend.
J'ai pris Apple Music rien que pour Taylor Swift.
Comme quoi. Mais moi, je sais qu'il y a plein de trucs, je te jure, sur 130 morceaux, j'en ai 30 qui sont grisés, c'est pas 30 morceaux de Jay-Z, et surtout, c'est des morceaux que j'avais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je les ai écoutés sur la plateforme. C'est ça qui m'énerve, en fait.
Ouais,
tu vois, que je n'avais jamais mis dans la plateforme.
Tu tombes dans une instabilité culturelle.
Ouais, c'est très chiant, ouais. T'as un pan de ta culture qui
est déstabilisé.
Il faudra peut-être pouvoir mettre ses propres MP3 dans Spotify. D'ailleurs, au début, c'était possible dans Spotify.
Bah, je crois qu'on peut le faire.
Tu peux scanner maintenant dans Spotify ta bibliothèque musicale,
ouais.
Je crois.
Ouais, sauf que, moi, j'ai cramé mon disque dur.
Il va falloir que tu rachètes tous ces titres que tu n'as plus.
Je vais les racheter, ouais. Je pense que je vais les racheter.
Un par un.
Une deuxième fois. Oh là là, c'est bien. Alors, on termine
là-dessus,
on attaque
comme
tout de suite
la
troisième et dernière FAQ.
FAQ.
Troisième et dernière FAQ. Question posée donc lors de notre soirée avec nos amis des Pioles au Pioles. On vous a demandé votre avenir de cyborg. Est-ce que vous préférez que la technologie de demain se porte sur vous, autour de vous, très proche de vous, ou qu'elle soit carrément, soyons plus simples, embarquée à l'intérieur de votre corps. Voici vos réponses.
Je prendrais plutôt des prothèses. Genre, parce que là, je vais répondre vraiment sérieusement. Parce que honnêtement, je pense que la médecine va évoluer de manière assez rapide, et du coup, éviter les rejets. Et un peu en fait à la Mankind Divided, genre à la Deus Ex. Je pense que c'est vraiment un truc d'avenir et qui va fonctionner. Les augmentations au niveau des bras, des jambes, etc. Je pense que c'est l'avenir, mais vraiment. Terme peut-être fusionné, peut-être pour essayer éviter les rejets, mais non, une prothèse externe, c'est vraiment le futur.
À l'intérieur, parce que l'extérieur c'est trop grillé, et après on se fait poursuivre par la police et l'État.
Ouais, clairement les appareils à l'extérieur. Si tu veux, les machines à l'intérieur c'est trop intrusif. Déjà, on a plein de... On remet tout en cause sur l'internet et les conditions générales de tous les services que tu utilises qui sont trop... Enfin, qui...
C'est pas clair,
petit hein. Côté fin de soirée là.
Je me vois pas introduire des machines dans mon corps.
Digression.
Pour m'augmenter. Non, vraiment, les machines à l'extérieur.
bah je crois que je préfère à l'extérieur de mon corps comme Iron Man. Et même Iron Man à un moment donné là à l'intérieur de son corps et il meurt. Alors du coup on préfère l'autre.
Franchement je préfère que ce soit à l'intérieur, c'est trop moche à l'extérieur.
J'aimerais bien essayer les deux pour pouvoir me décider parce que
à l'extérieur de mon corps au moins les autres voient que je suis augmenté grâce à des machines et pas
regardez le poids
parce que j'ai des trucs à l'intérieur de moi. Au moins c'est clair et net, je suis augmenté parce que des gens m'aident. Gold.
Bah, à l'intérieur c'est plus utile.
Genre où?
Alors je sais pas au niveau de l'estomac, des choses comme ça, tu vois, comme ça tu peux bouffer ce que tu veux, t'es tranquille, tu vois, y'a pas de soucis.
Non, intérieurement. Je choisirais des nanomachines pour réparer tout ce qui merde. Voilà. Et jamais être grabataire ou sénile.
Est-ce que l'œil, c'est intérieur ou extérieur? C'est les deux. Bah du coup de l'œil, j'aimerais bien être augmenté de l'œil.
Je dirais à l'extérieur, au moins pour pouvoir les retirer au cas où il y a un souci quoi.
À l'intérieur, comme ça les autres ne seraient pas obligés de le savoir et ils pourraient pas savoir si potentiellement je vois leur slip ou si j'entends leur pensée.
Je pense l'extérieur en vrai. Je sais pas, un module sur mon bras. Non, sur mon bras vraiment, tu vois. Je sais pas. Voilà, l'espèce de grande Apple
Watch. L'alcool.
Minuit 2 là.
À l'intérieur. Parce que j'habite en côte et avoir un troisième poumon serait pas mal.
À l'extérieur, j'ai trop peur, ça doit faire trop mal à l'intérieur.
Je pense que je préfère être une personne augmentée par les technologies externes. Tout simplement parce que j'aime pas perdre le contrôle. Et je pense que si ça déraille, et un jour ça va dérailler, j'en suis sûre, il faut pouvoir stopper le délire et revenir à la normale, si je puis dire.
Ouais, quand tu commences à te faire greffer des membres ou des implants, ça devient chelou, mais... Non, je reste team device externe.
Alors, externe à mon corps, tu sais, un peu comme dans Dragon Ball, tu sais, l'espèce de petite lunette que t'as... Bah, ça, je préférais une technologie externe. Interne, c'est comme les implants contraceptifs ou tout ça, tu peux pas l'enlever. Donc c'est toujours en toi, donc non.
Bah, j'ai tendance à dire comme ça, de but en blanc, qu'à partir du moment où une machine ne rentre pas dans notre corps, on a tendance à être un peu plus en maîtrise. Donc ça m'effraie un petit peu moins. Et je vote plutôt pour les choses qui se passeraient à l'extérieur et dont je pourrais profiter.
De l'intérieur. J'aimerais bien avoir des caméras dans mes yeux qui enregistrent toute ma vie.
Oh là là.
Externe. Enfin, tu vois, je suis pas dans le délire genre où elle est tout, mais moi j'ai très peur de Google qui veut faire des trucs à gogo, interne, augmentation, tu vois, on mêle le biologique et le technologique et honnêtement ça me terrifie.
Voilà. Pour quelqu'un qui veut pas,
ça
qui
finit
pas
bien
trop,
cette
pour quelqu'un qui est pas trop dans le délire George Orwell, est complètement dans le délire George Orwell. je trouve ces FAQ très mignonnes parce qu'il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de sincérité, beaucoup de digressions.
Naturel.
On a une communauté à l'image de notre équipe, je trouve.
Ouais, on a
la communauté qu'on mérite.
Bon, et alors vous, rapidement, interne ou externe?
Plutôt externe.
Plutôt externe pour Daz,
ouais.
Mélissa?
Externe aussi. Externe. Enfin, on est déjà.
Qu'est-ce qu'on est conservateur. Sylvain, j'attends beaucoup de toi.
Hein. Bah, Sylvain.
Les deux.
Oh,
la totale.
Le Big Mac. Mac de luxe.
Sylvain, il veut, tu sais, comme les trucs aimantés pour laver les deux côtés de la vitre. Il veut un truc de chaque côté de la peau. Fibre.
Interne, j'ai mon corps qui marche pas très bien et j'aimerais bien corriger. Merci. Des petites choses.
Très bien. Fais un litchi.
Oh.
Un GoFundMe.
Tant de références.
Merci pour le marketing.
Un peu génial, parce que ça marche mieux.
Ouais, je vois pas très bien.
Bon, allez, on reste un tout petit peu, pas sur les génias et le
L'Aurel
crowdfunding,
tigre.
Mais sur un peu une forme de transhumanisme dont va nous parler Sylvain pour cette dernière chronique.
Sujet numéro 4.
En chemin vers le transhumanisme, nous nous sommes arrêtés à l'ego augmenté.
Ah ben voilà l'ego augmenté.
Oh oui.
Externe ou interne?
Attention, musique. 2452. Le Fibre Tigre 3000 était un prototype militaire top secret. Mi-homme, mi-machine, son redoutable bras mitrailleuse devait en faire le soldat du futur. Mais tout a basculé quand il a vu sa femme mourir devant ses yeux. Aujourd'hui, Fibre Tigre 3000 se bat contre un gouvernement socialiste mou qui veut le faire taire. Il ne s'arrêtera que lorsque tous les bolcheviks de la fonction publique seront éliminés. C'est sa mission. Il est droit, il est dur, il vient du futur.
Retour du futur.
Fibre Tigre 3000. Mais entre deux rafales de machine gun,
Fibre Tigre 3000 a aussi ses émotions et ses faiblesses. Il regarde son bras en titane, caresse son œil bionique et son déambulateur exosquelette et pense soudain « Je me bats contre des êtres qui pensent comme des machines, mais suis-je encore humain ?» Droit, dur, futur, Fibre Tigre 3000.
C'est pas le futur, c'est les années 80.
C'est le rétro-futur. Et oui, dans les années 80 exactement. Et même avant, c'est comme ça que nos auteurs de science-fiction imaginaient le futur de l'être humain. Lutte des classes sur fond de ville cyberpunk ou des neuromanciens au chômage, bidouille des pupilles infrarouges et des implants cérébraux qui se font payer dans une monnaie internationale dématérialisée qu'on appelle le crédit. Voilà. En résumé, c'est un peu ça le cyberpunk. C'est le paradoxe des voitures volantes, moi je l'appelle comme ça. On y a cru dur comme fer et puis les années 2000 approchant, on y a cru de moins en moins. Et aujourd'hui, regardez autour de vous, on a des voitures qui perdent les pédales quand il n'y a plus de ligne blanche au sol et le bitcoin. Désolé.
Ça marche.
Quant à devenir des humains augmentés, améliorés par des machines, est-ce qu'on en est encore loin? Bah, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette chronique. La réponse va probablement vous surprendre. Les dignes héritiers de McLuhan, hein, je les entends déjà arriver, vont me dire que les médias sont déjà un prolongement des sens. Que le smartphone, seul, il augmente déjà bien l'être humain. Petit joueur. À ce moment-là, Daz, au volant de sa 206, c'était une 206 que t'avais ?
Une 207.
Une 207, était un cyborg. C'est ça que vous êtes en train de me dire ?
Oui.
Aller plus vite, être plus fort, avoir plus de connaissances, tout cela est déjà possible grâce à la machine, grâce au smartphone notamment. Mais rappelez-vous de la loi de Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Eh bien, je m'apprête à vous révéler, chers auditeurs, chers confrères, qu'il y a autour de cette table, parmi nous, parmi vous, des magiciens. Vous ne les croiserez pas dans la rue, ni dans les boutiques équipées de quelques technologies avancées. Non, vous allez les voir dans un endroit très spécial, un endroit où tout est possible, un endroit où personne ne sait que vous êtes un chien, ou un bot, ou un adolescent macédonien. Bienvenue sur Internet.
Putain.
Laissez-moi revenir un petit peu en arrière. C'est pour toi, Arthur. Connaissez-vous le growth hacking? Derrière ce superbe buzzword, il y a des méthodes plus ou moins propres et légales pour automatiser des tâches répétitives. Exemple, on repère un truc qui marche. Suivre des gens sur Twitter pour qu'ils nous suivent en retour. Ça s'appelle le follow-back. On l'automatise grâce à un script. C'est ainsi que on crée ce qu'on appelle le mass-follow, mass-unfollow, que vous connaissez tous très bien sur Toutfibre. C'est à peu près ça, le gros hacking. En d'autres termes, il s'agit de donner des super-pouvoirs de super-spammeurs à notre double virtuel. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Nos avatars numériques, ils sont mi-humains, mi-machines. Ils sont droits, ils sont durs, ils sont futurs. Vous avez déjà croisé sur Instagram des gens qui commentent « Amazing !»« Sweet shot !» Love it sous les publications. Sont-ils des humains? Sont-ils des robots? Les deux, mon commander. En 2017, pour percer sur Instagram, vous devez être des transhumains numériques. Sylvain 2017. Oh, putain. Si vous devez réutiliser le mot, il faudra me citer.
2022.
En utilisant Instagress ou encore Botstagram, vous abandonnez, c'est des scripts, hein, vous abandonnez une partie de votre âme humaine pour la transformer en robot. Exemple très concret, le compte Sylvain Palais suit... like et commente de manière autonome selon des paramètres que j'ai prédéfinis. Pendant que la partie humaine de mon compte Instagram va publier une photo et tenter de trouver une bonne accroche, le robot qui contrôle mon compte, il sera allé commenter chez des dizaines de comptes de manière aléatoire.
C'est dégueulasse.
Sur Instagram, je suis moitié moi, moitié bot.
100% sale.
100% sale.
Tous les comptes font ça, hein, les gros.
Absolument. Lorsque vous vendez votre âme au diable, il faut prendre quelque chose en retour. C'est la loi de l'échange équivalent, nous disaient les frères Elric dans Full Metal Alchemist.
Cette imitation.
Mais si, en version française, il avait une voix comme ça. Eh bien, une des conséquences fâcheuses de ce don d'ubiquité, c'est ce que j'appelle l'uncanny valet personnel. Sylvain Palais 2017, pour le citer.
C'est un peu comme Gilles Babinet, en fait.
Il lui reste 6 jours.
Pour les deux du fond... qui viennent de s'abonner au podcast, déjà bienvenue. L'Uncanny Valley, c'est une hypothèse qui nous explique que plus un robot androïde ressemble à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Si vous avez vu Star Wars Rogue One, vous savez de quoi je veux parler. Ces choses horribles en CGI. Que se passe-t-il lorsque votre partie robotique va aller commenter le compte d'un pote sur Insta, d'un impersonnel « Probably your best shot ». Comment va-t-il réagir s'il n'est pas dans le secret des bots? Il se fout de ma gueule? Pourquoi est-ce qu'il me parle anglais?
Sylvain, enfin! Sylvain, c'est quoi ce commentaire?
Pourquoi? Sur une photo de merde en plus, pourquoi? Putain, mais c'est sûr qu'il se fout de ma gueule! Hey man, tu t'es fait pirater ton compte? Le self-uncanny valet, il bide, Sylvain Palais 2017, vous pouvez également le ressentir face à un moteur de recommandation assez évolué. Il y en a un que j'adore, c'est Pinterest, par exemple. C'est un algorithme qui va avaler tout ce que vous épinglez, tout ce que vous aimez, mais également là où vous cliquez, et probablement, faut vérifier ça, là où votre curseur s'attarde.
Ah, c'est
je suis sûr qu'il le
c'est
savent.
C'est sûr, il traque ça.
Lorsque vous vous connectez à Pinterest, votre home qui apparaît sous vos yeux va ressembler à une sorte de mood board de votre vie réalisée par des publicitaires rigoureux, mais un petit peu caricaturaux, comme tous les publicitaires. Alors nous avons le persona du DIY Bobo Camper, il habite en zone urbaine et fait du vélo, et puis il donne un petit peu de piquant à sa vie de trentenaire en allant camper le week-end. Hein.
Sylvain, c'est toi ?
Bah on a qu'à lui mettre un tuto pour faire des pancakes avec des allumettes et un bidon d'essence.
T'imites vachement bien un bot de reco.
Ça ressemble à ça, un bot publicitaire.
Un bot reco.
Il s'appelle Jean-Louis, ton bot reco.
Il s'appelle Ranu. Sauf que ce publicitaire, c'est un robot qui a construit une version totalement idéalisée de ma vie. Tellement parfaite qu'on sent qu'il y a quelque chose de louche. C'est donc ça, l'Uncanny Valley personnel, Ibid. Non seulement nous avons sur les territoires numériques toutes les caractéristiques du transhumanisme, donc une augmentation de nos facultés qui sont invisibles pour les autres, hein, elles sont vraiment là à l'intérieur, et qui donnent des pouvoirs surnaturels comme le don d'ubiquité, à les commenter sur plein de comptes, mais en plus, on a presque tous les ingrédients pour carrément créer un double autonome. Imaginez si je liais mon compte Pinterest à mon compte Instagram.
Oh, le massacre.
Superbe photo de hamac, lien d'affiliation Amazon. Si tu t'intéresses au camping, je peux te montrer comment faire des pancakes avec un bidon d'essence. Lien dans ma bio. C'est d'ailleurs la plus grande peur du transhumanisme, finalement.
Est-ce que tu t'es imité? Est-ce que t'as imité ta voix
ouais,
de bot?
J'imagine mon bot comme ça. J'imagine qu'il commente comme ça. Et donc, c'est la plus grande peur, en fait, du transhumanisme, comme le ressent le personnage de Fibre Tigre 3000 en introduction, c'est perdre le peu d'humanité qu'il nous reste. Moi, j'en suis à la première étape de cette expérimentation et je pense que demain, on va tous y passer. Sur Instagram, je suis déjà mi-homme, mi-robot. Et pour savoir si un bot pourrait me remplacer, j'ai créé le compte 6ou42 sur Twitter. Comme le célèbre Orsibooks, je sais pas si vous connaissez, c'est un robot qui prend des tweets dans mes archives, donc dans les archives de Sylvain Palais, et qui va essayer de fabriquer des nouveaux tweets à partir de cette matière première. Ça se développe en 20 minutes, c'est hyper simple à faire. Je vous rassure, la plupart du temps, ça n'a aucun sens. Par exemple, « Chers tous, je vous ».
Okay. Ça, c'est un tweet.
Ça, c'est un tweet. Ou un autre, « Rien que pour la famille, chaturbette webcam, minivids VOD et Pornhub indé ». Ok, ça veut rien dire.
Pour moi, ouais,
pour moi, ça veut dire
quelques trucs.
Que pour la famille. Famille écrit F-A-M-I.
Oui, mais après, t'as un petit champ lexical qui raconte des choses, bref.
Mais parfois, sursaut, lueur de conscience, la bête prend vie. On se dit qu'il manque pas beaucoup pour qu'il me remplace complètement. Par exemple, ce super de tweet. Papier incroyable sur un de ces articles de Narcisse qui découvre la vie.
Mais grave, j'ai cru que c'était toi pour de vrai.
Et bah là, il manque qu'un lien vers un article de 2020 et on est bon.
Oh putain.
Clash respect.
Oh le mec, il tire sur l'ambulance.
C'est pas moi, c'est mon bot. Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que ça vous rend triste? Moi, personnellement, je trouve ça génial. Et je pense que très vite, avant de faire que nos robots fassent nos courses à notre place ou remplacent nos yeux, les bots, ils vont d'abord nous aider à gérer notre vie en ligne. J'en suis persuadé.
Oh là 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 là. J'aime bien quand tu dis ça, genre, ça vous effraie? Moi, j'adore.
Ça fait super.
Son petit air de renard, t'as qu'à malin.
Petit disclaimer, le robot qui va commenter sur les autres comptes Instagram, je l'ai pas installé parce que je le trouvais vraiment un peu abusé.
Oui, tu
l'as pas fait?
J'ai testé. J'avais un robot qui likait et suivait des gens automatiquement en fonction de.
Mais du coup, je comprends peut-être mieux le comportement de certains de mes followers Instagram. Dont des gens qui prennent beaucoup en photo des piscines à débordement.
Mais en fait,
parle-t-il.
On ne citera pas de nom.
Il like 3000 trucs par jour, quoi.
Voilà.
Ah, mais il a 1 million d'abonnés. Ouais.
Mais le corollaire de ça, c'est aussi l'économie du hashtag. On met pas des hashtags, par exemple, quand je mets le hashtag Instagood. C'est un hashtag qui est utilisé par 3 millions de personnes par heure.
Ouais, donc ça ressort pas.
C'est pas un truc que les gens vont dire, ah bah je vais aller voir le hashtag Instagood, ouais. C'est intéressant. Bah non.
Donc en fait, c'est des robots qui parlent à d'autres robots en fait.
En fait, tu mets des hashtags pour te faire liker par des bots.
Mais du coup, les hashtags, tu les as choisis automatiquement.
Mais ça, c'est sûr.
Tu les as choisis.
Alors attends, tu programmes. Est-ce que tu programmes un bot fait pour se fermer par des bots?
Si t'as 0 follower sur Instagram, et que tu mets les bons hashtags, t'as 30 likes sur tes photos.
Ouais.
Ça c'est la règle. C'est pour ça que.
Non mais c'est la règle, mais elle est pas.
Je mets à dessein pas de hashtag sur mes
oui, mais
sur
alors,
mes Insta.
Du coup c'est.
Pour.
Là on parle de technique de spam pour se faire connaître, mais donc la chronique de Sylvain c'est d'automatiser et d'avoir quasiment une sorte de truc qui est parfois plus intelligent qui dit des choses sur nous pour gérer ça. C'est ça le truc.
Ouais, il y a un peu des deux.
Ouais, mais du coup ça fonctionne bien si t'es le seul à le faire.
Oui.
Mais à partir du moment où
c'est
tout le monde.
Non,
mais c'est un jeu de dupe, Daz. C'est
oui, bien sûr.
Ouais, enfin c'est.
Oui, mais à la fin.
Tous les gens qui sont là-dedans, ils voient la matrice, je suppose. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là-dedans, ils savent que, mettons qu'ils ont 10 000 followers, il y en a 7 000 de faux, et que les gens en face d'eux qui likent, ils savent aussi qu'il y en a 70% de faux.
Mais,
Mélissa,
les mecs qui donnent de l'argent à ces gens qui sont supposés avoir de l'influence ne savent pas que derrière le million
de followers de gens, ouais. là. Il y a 70%.
Ah, là, on parle du client. De,
tu veux dire L'Oréal,
mais du coup, le
L'Oréal
mec
qui fait des campagnes influenceurs.
Exactement. Qui, le mec qui voit pas, et donc du coup, de fait, ça marche.
Mais non, parce que
mais après, il traque les chiffres.
Tu peux pas savoir si ces gens sont vrais ou faux, puisqu'ils sont vrais. Ils ont juste mis un script qui leur permet d'augmenter. Mais c'est pas des,
bien sûr,
des
mais
faux
leur influence,
comptes de Biélorussie.
Oui, mais
comme
leur
tu dis,
influence,
c'est la partie humaine qui reste celle qui se fait chier à faire des photos.
Voilà.
Ouais.
Mais en fait, donc le endgame sur ce bot Instagram, par exemple, c'est d'aller moissonner du like et du follower.
Qui lui-même est faux.
Ah, en grande partie. Follower, ouais.
C'est des vrais followers, mais qui follow par automatiquement, quoi.
Ah oui, d'accord, oui.
Parce que c'est des vrais gens quand même derrière.
Tu te fais aimer par des vrais comptes, mais ces comptes te follow via un bot. Donc en fait, tu te fais aimer.
Ouais, c'est pas des fake accounts, c'est des vrais gens.
Donc c'est là où on touche l'uncanny valley du réseau social.
Exactement.
Là, on touche même ça defeat the purpose, en fait, ton truc là.
Ça dépend,
on rejoint le cas de Valentine qui distribuait les likes comme un pédophile distribue les bonbons, tu vois.
Oh.
Ok,
après,
mauvaise comparaison.
Mais croquante quand même.
Mais non, mais tu vois, tu...
Arrête, parce que Valentine va te bloquer.
Oui, c'est... Ah, merde.
C'est déjà le cas, je pense.
C'est déjà le fait.
Oh, zut.
Tous les
non, elle m'a pas bloqué encore. Julien Chiez m'a bloqué, par contre.
Question, Julien Chiez est-il...
Oui, bah bref. Mais en fait, gagner des followers, ok. Mais est-ce que tu pourrais pas gagner des followers juste en utilisant les hashtags sans liker, parce que le like, là, carrément, tu t'automatises. Le seul truc où c'est une interaction humaine qui est demandée par le...
Oui, mais le like est plus puissant que le hashtag.
C'est pas mal, ça aussi, on va la noter.
Il y a le hashtag et le like, bien sûr.
Non, mais si, tu pourrais, juste avec le hashtag, tu peux récupérer des likes et des followers, mais si tu veux que ça aille plus rapidement...
Je trouve que, tu vois, juste avec le hashtag, je pense qu'on est encore du bon côté de la frontière, tu vois.
Alors, on est encore correct. Mais alors, du coup, autre question.
Il y a une déontologie.
Ouais.
Autre question. Là, vous nous parlez donc de la zone grise qu'on est aujourd'hui entre le bot et l'humain, ils sont tous les deux liés sur le même navire, sur le même bateau, qui a un compte à faire grossir. Et à la base, est-ce que je me trompe si je vous dis qu'à la base, on est sur les réseaux sociaux pour recevoir de l'amour et se sentir mieux parce qu'on a eu des likes, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on sait que cet amour, il est aussi dévalorisé, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher du like, mais comme dit Daz, en fait, ce like, il est complètement dévalorisé parce que c'est un like qui est automatisé, alors qu'à la base, ce qui nous fait kiffer si on poste un petit selfie de soi ou un outfit of the day, c'est de dire, ah bah, un tel a kiffé mon truc. Si ce truc-là, en fait, on ne sait plus si c'est vrai ou pas, voire on sait que c'est globalement faux, quel est l'intérêt, effectivement?
Mais il y a plein de gens,
il y a plein de gens
qui restent dans des très mauvaises relations juste pour se sentir aimé, quoi.
D'accord.
Ben, c'est la même chose.
Ah oui,
non, mais c'est vrai. Quand je vois les gens qui ont 3 followers et qui mettent 12 hashtags juste pour avoir 15 likes de plus, je me dis, mais...
T'as raté ta vie.
Oh là là.
Mélissa Seguela.
J'en vois plein et je me dis.
Il faut bien commencer quelque part. Tu peux pas arriver directement avec un compte à 200 000 followers, Mélissa.
Oui, mais en fait, est-ce qu'ils vont y aller un jour?
Mais non, mais je.
Struggle.
Mais non. Je me pose la question.
Le moment où ils vont réaliser que c'est le truc qu'il faut faire, on sera déjà peut-être passé au suivant.
Non, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Mélissa.
Tu penses qu'ils ont raté le train et qu'il faut surtout pas essayer?
Non, pas tous. Tu vois, mais parfois, tu te dis à quoi bon, quoi.
Comment tu fais quand tu traverses pour avoir quelques likes et quand en fait, à un moment, c'est.
T'as juste envie d'avoir les vrais chiffres de OK.
On connaît tous des gens qui sont totalement normaux et qui prennent la moindre photo avec 170 hashtags et
oui,
effectivement chaque photo fait pas plus de 35 likes.
Franchement,
mais...
les mecs, ils se font chier à appuyer automatiquement sur les 170 hashtags, ils perdent 3 minutes, pourquoi?
Oui. Bah, il faisait un copier-coller, c'est pas très grand.
Donc t'es en train de dire en fait que finalement les réseaux sociaux c'est de la vacuité.
Non, moi je veux bien le vrai like de Daz.
Et à la fin chacun dit ce qu'il veut.
Je veux bien le
vrai
like de Daz, mais je veux pas le faux like de je sais pas qui.
Mais fibre.
Pour répondre à ta question, indirectement à ta question sur l'amour, la dévalorisation de l'amour, il y a une technique qui est un peu plus efficace que le bot direct.
Ouais.
C'est la technique du bot impresario. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup sur Twitter.
Alors.
Fibre est allé loin.
Ce sont des gens qui disent, qui alpaguent d'autres. Non pas en disant on va dire le discours qui est likez-moi, aimez-moi, j'aime ça, mais ils disent plutôt waouh, c'est bien ce que t'as dit, ça me rappelle ce que dit machin, et en fait t'es l'impresario de machin, tu vois.
Mais c'est toi, t'es l'impresario de toi-même, c'est ce que tu fais tout le temps.
Moi je suis l'impresario de moi-même, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des bots impresario. Moi j'en ai un par exemple pour The Beautiful Walk, mais en anglais, en français d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il fait quoi, il alpague quelqu'un qui parle de course
sur quel mot-clé? Ouais,
on a un Raspberry Pi qui fonctionne toute la journée,
ouais,
qui prend tous les gens qui parlent de course,
ouais,
et on leur dit c'est pas mal, ça te dirait de tester notre service?
Mais c'est les commentaires des gros forceurs que t'as sur YouTube.
Bien sûr, bah sur YouTube t'as plein de forceurs.
Mais là,
ouais, mais en fait, alors là, je pense que on peut demander à Sylvain. Je pense que le nombre de clics
sur le lien qui disent « Superbe morceau de Jay-Z, et va sur ma page pour écouter ma propre interprétation de... » Mais n'importe quoi.
Mais sur YouTube, je sais pas, t'as des
tout
stats
monde, tout le monde du type dégage.
Twitter. Mais parce que, encore une fois, toi, là, c'est le mec qui comprend pas l'arnaque nigériane.
Non, mais si tu veux,
justement, je sais que c'est une arnaque.
Là où il n'y a pas trop d'arnaque dans cette... Là où je me sens légitime pour vous en parler, que c'est pas trop une arnaque, c'est qu'en fait, on alpaque quelqu'un, on lui dit pas « Aime-moi », on lui dit « Tiens, regarde ». Tu as fait ça,
oui,
ce service est compatible.
Ça reste correct,
voilà.
Ouais,
toi, tu es la pub contextuelle.
Mais après, il y a des gens qui font ça pour leur personnalité en disant, waouh, trop drôle, regarde, ce mec-là aussi, il est drôle comme toi, tu vois, des choses comme
ouais,
ça.
Ouais, je vais paraître vieux jeu, mais ça me paraît tellement triste. Ouais. Bon, après, les gens me traitent de snob sur les réseaux sociaux.
Ouais,
mais...
tu commences à répondre, hein. Oh, non, on l'a tous vu.
On devrait faire un bot lab qui fait que des replies.
Bah, j'ai replay code, c'est encore plus vicieux.
Le fake lab qui répondait pour moi, mais c'était un vrai humain. Alors, du coup, dans l'Uncanny Valley, c'était pas mal. Mais est-ce que je suis le seul à me dire que c'est quand même
non, moi, je suis hyper divisée parce que j'ai jamais fait ça, ni testé, ni rien. Et à la fois, je me sens pas sale.
Ouais.
Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir raté un truc, mais.
Un manque à gagner.
Le truc, c'est que, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté d'être un peu plus enfin, je suis pas connue. D'être un peu plus connue de quelques gens dont je sais pas qui c'est. Non. Mais en fait, il y a une espèce de pression sociale de l'influence.
Ouais.
Clairement, qui est notre génération web, quoi.
Ouais.
Et en fait, on se sent à la traîne de ces pratiques parce que on les apprend peut-être un peu tard, alors qu'on a toujours été déjà en avance.
Mais alors.
Et en même temps, on se dit, est-ce que, comme on sait qu'on est toujours jugé sur cette influence, je pense qu'on se demande si on n'aurait pas dû faire des choses sales, mais on respecte nos principes, je pense.
Alors moi j'ai une
ça,
question.
Tu vois, c'était juste le propos de Nicette, quelqu'un qui a envie d'y goûter.
Non, parce que j'ai toujours refusé.
Il faut que je mette des frontières. Il faut que je trace une
ligne. Non, mais
c'est bon, mais Nicette, tous tes followers Twitter, c'est bon, t'en as assez.
Est-ce qu'à un moment, je n'aime pas la cocaïne?
Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas sur un genre d'équilibre qui tient uniquement parce que les annonceurs, donc ceux qui ont les budgets,
ouais, sont des cons.
Refusent en fait d'admettre cette vérité là.
Il y a pas que les annonceurs. Je pense quand même qu'il y a des gens qui vont chercher du like parce que juste
pas
la
bonne
arrive
de
like quoi.
Vraiment.
Non mais
ils
cherches...
vont pas forcément essayer de se vendre derrière.
C'est vrai que Daz a raison que le système qui est une économie des gens d'influence soutient en dessous tous les petits jeunes qui rêvent d'être Cyprien et qui du coup font ce genre de truc en disant je vais avoir des likes et que mes vidéos soient vues et que et grossir.
Fibre.
J'aimerais rebondir, c'est pas un peu trop tôt dans la soirée, non, je sais qu'il est tard en fait, vous pouvez pas savoir à quel point il est tard, sur le Horse Ebook de Sylvain.
Ouais.
Parce que nous on a un robot à qualité qui s'appelle
Horse Ebook.
Ouais, qui s'appelle Yuri. Je sais pas si vous connaissez sur la trajectoire.
Ululé. Est-ce que t'es pas en train de faire un coup de l'impresario là?
Non.
C'est intéressant votre truc comme ça.
J'ai un truc
sur mon podcast.
Non, mais on est face à un questionnement métaphysique, c'est-à-dire que c'est un super hors ebook, c'est-à-dire qu'il produit que des phrases qui ont du sens à partir de textes que tu lui as donné. Et la première fois qu'on l'a alimenté cette petite Yuri, je lui ai donné des textes à moi. Et en fait, elle sortait des textes que j'aurais pu écrire moi. Aujourd'hui, elle sort des textes de plein de gens parce qu'on l'a nourrie. Et je crois que dans 20 ans, on accédera à une forme d'immortalité, tout simplement parce que on déversera dans des intelligences artificielles qui sont des systèmes très simples, puisque nous, on en a une à qualité, donc vraiment tout le monde en aura. On déversera tout notre contenu de toute notre vie, tout notre feed, tous nos Instagram, tout notre Twitter, et peut-être même des choses qui auraient été enregistrées à notre insu, et on vivra à travers ça, c'est-à-dire tonton est mort mais il est encore là grâce à son robot quoi.
Voilà. Donc là on touche, c'est pour faire des
épisodes. Attends, c'est un épisode de Black Mirror.
Oui, de Black Mirror.
Je sais pas. Je regarde qu'une série par an et c'est pas Black Mirror.
C'est exactement ça, ça recrée un humain.
Terminer,
mais ça c'est possible hein,
juste pour terminer, on revient sur un point de la chronique de Sylvain. Donc il y a cette chronique de gagner en popularité, donc de faire du growth hacking comme il disait. Il y a un deuxième point qui était intéressant, qui était sur cette manière dont les bots te comprennent et les bots se font une vision de toi. Qui est-ce qu'elle te force à aller vers cette vision ou pas? Donc là Sylvain, tu parlais plus des outils de curation de Pinterest qui disaient où est-ce qu'il a traîné, qu'est-ce qu'il a regardé, on va lui montrer un peu ce qu'il pourrait aimer, ce qu'il doit aimer, ou lui conseiller des choses. Est-ce que quand tu vois ça, Sylvain, pareil? Donc c'était quel terme déposé celui-là? Le auto
c'était le self uncanny valley. Ouais.
Le self uncanny valley. Comment tu te sens quand tu vois cette homepage qui te raconte de manière un peu caricaturale mais quand même vachement juste?
Moi je suis impressionné par la justesse justement du truc.
Ouais.
Et en même temps ça me fait flipper, pas parce que c'est hyper abouti, ça me fait flipper parce qu'il manque un petit truc et que c'est hyper superficiel.
Ouais.
Et
tu le vois encore un peu quoi.
Ouais, par exemple sur le forum de qualité, on a un topic sur lequel on partage nos recommandations YouTube.
Ouais.
Et comme ça on se fout de la gueule des uns des autres et on se justifie beaucoup.
Ouais.
Je pense que si on partageait notre home Pinterest,
on aura un côté un petit peu ah putain, c'est hyper superficiel ma life sur sur internet en fait. C'est, je m'intéresse à trois grands sujets principaux et le pire c'est que c'est juste, tu vois.
Ouais.
Donc ça fait un peu peur, je trouve.
Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? C'est, on peut le voir dans l'explorer Instagram, on peut le voir dans d'autres endroits lorsque ou même enfin, est-ce qu'on peut en parler sur Spotify? Non, mais sur d'autres endroits, est-ce que ça vous a mis un peu mal à l'aise des fois? Vous êtes tombé dans cette self uncanny valley. Les fois où vous avez eu des recommandations qui racontaient un portrait de vous, qui était à la fois vrai et à la fois simpliste, ou à la fois.
Mais je sais pas qui a décrété que chaque personne sur cette planète devait absolument s'intéresser à 1 milliard de trucs et vivre 1 milliard de trucs et.
Ouais, non, mais on ne dit pas le contraire. Ouais, mais tu est-ce peux que t'es déjà trouvé face à quelque chose qui t'a un peu troublé quand même.
Bah, ou pas. Alors, à titre personnel, je pense pas, mais en même temps, est-ce que si je tombais dessus, ça me troublerait? Je suis pas sûr non plus, en fait.
D'accord.
Donc ça se trouve, je suis peut-être déjà tombé 1 milliard de fois sur des trucs comme ça.
Ouais.
Sauf que moi, ça me dérange pas, en fait.
D'accord. Mélissa, ça t'est déjà arrivé? Moi, sur Instagram, oui. Ça m'est arrivé. Mais...
Bah oui, tu vois que ça te suggère des trucs qui sont pour toi. Enfin, la publicité Instagram.
Ouais.
Moi, bah, ça va, c'est que des trucs que je trouve trop cool.
Non, franchement, la pub sur Instagram, c'est hyper efficace, mais justement. Blindés,
Le marketing, ça marche.
C'est
yes.
Ouf, quoi.
Merci, Daz. Ouais.
C'est, là, tu te dis, OK, j'aime ça, ça et ça.
Attends, mais ils me proposent des porte-monnaies blindées, RFID, machin et tout. Super géniaux.
Mais bah, viens voir mes pubs, tu vas comprendre. Ça
me propose des sacs à dos, moi.
C'est vrai.
Moi, j'ai des chaussures, des bijoux et
par contre, on est d'accord qu'il y a un, dans le genre, très bête, il y a Amazon qui est très bête, quoi. C'est genre, t'achètes un aspirateur, après, tu harcèles pendant 15 jours pour acheter des aspirateurs.
Et tu t'en veux pas trop ou 4 de plus?
Ils ont pas optimisé, clairement.
Ça, c'était vraiment le.
Non, c'est pas, il y a pas qu'Amazon qui fait ça. J'ai acheté des pneus, ils me proposent toujours des pneus. Hein.
Ouais.
Genre, tu échanges tous les jours.
Non, parce qu'ils croient que t'as regardé, mais pas acheté. C'est très bizarre.
Ah là 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 là. Très bien. Eh ben, on verra, chers auditeurs. Tu lanceras un petit débat, Sylvain, sur le
ouais,
forum.
Je veux finir sur une phrase de mon bot que j'aime beaucoup. Spoiler du dernier Sherlock, .. Vous perdez votre temps et le nôtre.
Oh, c'est
putain,
beau.
Mais je croyais que c'était toi. Oh,
c'est
dit,
magnifique.
Mais qu'est-ce qu'il a bouffé, lui, en ce moment? Il est
attends,
complètement
est
rageux.
ça fonctionne.
Stéroïde, quoi. Donc, ça fonctionnait.
Ça a hyper bien marché.
Ouais, ouais.
C'est fou. Allez, on finit sur ce petit malaise.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est déjà la fin. Enfin, déjà.
Vous ne savez pas quelle heure il est. Il est tard.
C'est déjà la fin de ce Studio 404 du mois d'avril que vous écouterez, j'espère, en x1.
En avril.
Non,
avant le premier tour.
Hein, déjà.
Avant le premier tour, parce que ça se trouve, ce sera l'apocalypse.
Sauf, je dirais, l'introduction de la chronique de Sylvain. Je pense qu'en x2, elle doit avoir son petit pesant de cacahuète. En tout cas, on remercie encore une fois le Tank de nous accueillir, comme toujours. Là, on est tranquille dans le hall du Tank, qui sont vraiment, vraiment très cool. Merci Damien, merci Nico, merci Samy. On remercie Quentin, qui pour la première fois. Donc voilà. Quentin,
bravo,
c'est le bot de Gisla.
Bravo Quentin, bravo.
Le bot humain.
Non, voilà, qualité grandie et qualité grandie avec des émissions, mais aussi avec un staff de réalisateurs. Et donc, Adrien a rejoint C'est cool, c'est quoi. Et Quentin va venir aider Gisla. En tout cas, la réalisation. Donc, j'espère que t'as bien kiffé Quentin avec un bout d'iPhone en. Non, même pas un iPhone, un Android.
Un Android.
Ah, sacrilège.
Là, c'était là, j'aurais jamais réussi à cet Android. On va réaliser cette émission.
Attends, il a critiqué Apple dans cette émission.
En tout cas, merci Quentin, merci au Tank, on vous remercie. On vous donne aussi des nouvelles de nos petits projets. Donc, on vous a parlé il y a quelques temps d'un projet qui s'appelle Camp. Pas comme Band Camp.
Je sais pas s'il a un nom, il a pas de nom encore.
Ouais,
il a un channel Slack.
C'est Camp avec un Q.
Avec un Q.
Il faut juste que vous réserviez votre premier week-end du mois de juin, Sylvain.
La Pentecôte.
Absolument.
La Pentecôte.
C'est le moment où on va pas travailler. C'est le moment où on va
si,
pas
si.
Travailler en solidarité
c'est
pour 3, les
4, lieux. C'est 3-4-5, ou un truc comme 2, ça. 3-4,
c'est le week-end de la Pentecôte.
C'est
voilà.
La Pentecôte, début juin.
Google, c'est
premier week-end de juin, c'est ça.
Et est-ce qu'on leur donne ou pas le pitch ou pas?
Ouais.
Allez.
Ouais.
Wow.
C'est un week-end 100% déconnecté.
Bim.
Donc on va passer du temps tous ensemble, on va camper, on va rigoler, on va survivre, on va faire des trucs rigolos, on va organiser des chasses à l'homme, on va faire des battues,
faut ramener une guitare, apprendre jeux interdits.
Une tente, non. Il faut venir.
Il y aura des activités, on va tous camper ensemble, passer 3 jours, mais vous ne pourrez emmener aucun objet connecté, voire aucun objet vraiment électronique.
Il y aura de,
de toute façon, il y aura l'eau courante, mais je ne pense pas qu'il y aura d'électricité.
Ben voilà. Non mais les gens pourraient arriver avec
attends,
les chargeurs qui ont acheté pour Pokémon
4G.
Go à l'époque et tenir tout le week-end, tu vois.
Le kit, donc, le
non,
kit du chasseur.
Le but c'est de faire un week-end ensemble, mais que vous laissiez complètement au vestiaire et à l'entrée chez vous vos smartphones, vos appareils photo, tout ça. Et voilà, ce sera un très beau week-end, on en est sûr, mais ce sera aussi une manière pour nous de vous tester et de voir ce que c'est que la frustration, voire la panique de vraiment se couper du monde. Et on a déjà eu quelques retours de gens à qui on avait pitché l'idée, qui étaient là genre c'est super, et qui au bout de 5 secondes disait, mais si quelqu'un a besoin de m'appeler, eh bien il fera comme au XXe siècle, il attendra ton retour. En tout cas voilà, donc on va vous donner plus de détails, on va avancer sur ce projet Ken qui est notre gros projet, on verra s'il y a des personnes qui sont intéressées, peut-être qu'on sera 5.
Alors ceux qui sont chauds voilà. Et qui sont pas sur le forum, venez oui. Vous signaler dans le topic dédié qui s'appelle Projet Secret,
ou sur Twitter si vous voilà, n'avez vraiment pas les forums,
pour qu'on puisse voir si vous avez envie de faire ça ou pas.
Donc on est en train d'avancer sur ce projet, puis si vous êtes assez chaud à venir passer 3 jours avec nous à rien faire, à se mettre en PLS et attendre que ça passe parce qu'on n'a rien à faire. Non, en tout cas ça va être rigolo, ça s'appelle Cap et on vous en dira très vite. Et nous on se retrouve donc le mois prochain. Est-ce qu'on va arriver à faire une émission en public ou pas?
Ouais, on aimerait bien,
ça serait chouette. Ouais.
Au hasard une émission post-élection présidentielle.
Ouh là là, gros contenu.
Au hasard le premier week-end après le 7 mai, donc voilà, je vous regarde tous chers chroniqueurs avec des gros yeux, mais en gros le week-end du 13 ou 14 mai.
Alors ça va être compliqué pour moi.
Ça commence.
Voilà.
Moi c'est bon, je suis là pour une fois.
Allez, on trouvera un moyen. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette émission et on se retrouve très vite. Ciao.
Bye.